Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme.
Et moi c'est Julien.
Et on est enfin de retour, ça y est, après une petite pause, on va pas se mentir, peut-être la plus grosse pause de l'histoire de ce podcast. Ouais, c'est comme ça, ça arrive.
Ouais, hein. Ça arrive. C'est techniquement, je vais dire que c'est complètement de ta faute parce que t'as raté la date qui marchait.
Ouais, j'ai raté une fois. Une fois, j'étais pas dispo.
Et ça a
toutes
tout cassé.
Les autres, c'est toi qui étais pas dispo.
Oui, mais cette date-là, c'était la date prévue, donc je te donne le blâme en fait.
Oh la vache.
Les 3 mois où j'ai été complètement inaccessible ne comptent pas.
Ne comptent pas. Ok. Voilà. Bon. Bon.
Ça marche comme excuse.
Oui, ou... on va passer ça comme ça. Mais voilà, on n'arrête pas. Évidemment, je peux comprendre que, enfin, j'imagine que certains ou certaines d'entre vous ont pu imaginer ça après un break de quasi 4 mois. Mais non, on n'a jamais eu l'intention et on a essayé hein, presque toutes les semaines. Mais non, mais bref, ça, voilà. On est là, on est de retour et on va surtout rattraper notre retard. Oui.
Alors, pour info, j'avais pris un micro. J'avais pris 2 micros.
Oui,
j'avais
vrai,
pris mon Yeti parce que j'étais en voyage pendant 7 semaines et avant ça, j'étais occupé. Donc, j'avais pris un micro, j'avais pris mon Yeti et j'avais pris mes DJI, tu vois. Parce que j'aime bien ma voix avec les DJI. Les lavalières
Wireless. Okay. Les micro-cravates, comme on dit en français.
Ils sont vachement cool.
Ouais.
En fait, j'aime bien le côté où tu les plugs dans ton iPhone.
Ouais, c'est classe. J'aime bien ce truc aussi. Ouais.
Et donc, je voulais enregistrer quand j'étais en voyage. C'est juste que ça n'a pas marché à chaque fois.
Je sais, mais à chaque fois, ouais. Bon, bref. Voilà, on va pas rester là-dessus. Justement, on va rattraper tout ça. Alors oui, ça signifie que il y a peu de chances qu'on fasse un full sur Deadpool et Wolverine. Il y a peu de chances qu'on fasse un full sur Alien Romulus également. Mais on les traitera. Mais on les traitera pas aujourd'hui. Par contre, parce qu'on a vraiment beaucoup de retard. Donc là, on va commencer.
Enfin, on n'aurait pas fait de full sur Deadpool dans tous les cas.
Ah, il y avait de la demande, hein. Il y avait de la demande.
Ah oui, mais. Ouais. Je pense pas qu'il y avait une envie. En tout cas, de mon côté. T'aurais voulu faire un full? Ça m'est jamais venu à l'esprit qu'on aurait fait un full dessus.
Ah, c'est vrai?
Je crois que j'ai été le voir, il est sorti quand, celui-là?
C'était...
Je crois que je l'ai vu 3 semaines ou 4 semaines après la sortie.
Oh la vache, ah ouais. Ah non, moi, il est sorti fin juillet de mémoire. Et, moi, j'ai été le voir tout de suite. Et puis, ouais, j'étais chaud. J'avais plein de trucs à dire. Ouais, sur les caméos et tout, enfin voilà quoi. Bon bah voilà, je parle à Vincent, mon collègue de bureau, tu vas être très déçu, il n'y aura pas de full sur Deadpool. Julien n'en a jamais eu l'intention, c'est pas de ma faute, c'est pas la peine de me faire une scène lundi au bureau.
Voilà. Voilà.
Bon, donc...
C'est pas juste le retard qui a cassé l'épisode, c'est que j'avais pas envie, donc...
Oui, ok. Alors, mais on n'en est même pas encore là, en fait, puisque là, on va rattraper tout ce qu'on a vu au mois de mai et juin. Oui, c'était il y a longtemps, même pour nous, hein, en fait. On risque de ramer à se souvenir de certains trucs, hein. Pour être franc, moi, il y a des films, je sais que je voulais dire plein de trucs. Là, je me souviens de 2-3 trucs, parce que j'en ai vu plein d'autres depuis, quoi. Donc, mais... On va quand même faire ça sérieusement. On va rattraper parce que voilà, je sais aussi que toutes les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément des personnes qui vont autant que nous au cinéma. Beaucoup prennent des notes et puis se disent ok, ça je regarderai quand ça sortira, quand ça passera sur Canal, quand ce sera en VOD ou en SVOD sur Netflix Prime et je ne sais quoi. Donc c'est pour ça qu'on va quand même faire ça sérieusement et on va aborder un petit peu tout ce qu'on a vu. Au moins, de toute façon, on se souvient à peu près si on a aimé ou pas. C'est déjà pas mal. Donc on va faire ça comme ça. Alors, on a 19 films au programme de cet
en fait,
épisode.
Moi, je compte faire juste thumbs up, thumbs down.
Ah ouais,
pas
d'accord.
Ouais.
Oh putain, ça va être court. D'accord, c'est aimer, pas aimer. En fait, c'est comme sur Netflix. Non, maintenant, il y a pouce en bas, pouce en haut et 2 pouces en haut sur Netflix.
Ok. Ouais, je suis d'accord de faire 2 pouces en haut.
Ah, ok, on peut faire ça. Bon, bah, ça sera bien. Alors, 19 films, on va parler de La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, on va parler de Pullman, Nicky Larson, I Saw the TV Glow, Atlas, Babes, Sous la Seine, Handling the Undead, Bad Boys Ride or Die, Voyage avec mon père, Les Guetteurs, Tuesday, Survivre, Sans un bruit jour 1, Janet Planet, Le Comte de Monte Cristo, The Bike Riders, Vice Versa 2 et The Fall Guy. Jedi. Voilà notre programme. On n'a pas spécialement prévu de partie spoiler, donc a priori il ne devrait pas y avoir de spoiler dans cet épisode, mais si jamais il venait à y en avoir, il y aura bien entendu un signal sonore pour vous prévenir. Voilà, allez, la planète des singes, c'est parti, on se plonge tout de suite dans le truc. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Je sais, à chaque fois que je dis ça, c'est ridicule et on se moque beaucoup de moi. Mais, déjà, il faut que je trouve mon onglet. Voilà, je l'ai trouvé. Mais là, il y a une raison, c'est qu'en fait, on a traité ce film, La planète des singes, le nouveau royaume, on l'a traité avec le docteur Zaius et moi, dans un épisode à la 24 FPS. On s'est pas gêné, on a complètement repris la formule 24 FPS, mais on l'a pas fait dans 24 FPS, on l'a fait dans le podcast Cornelius N. Zira du docteur Zaius. Donc, si vous voulez tout savoir sur la production et ensuite une analyse scène par scène de ce film que Zaius et moi avions beaucoup aimé, malgré quelques réserves sur 2-3 points, eh bien, je vous invite à écouter le podcast Cornelius N. Zira. Mais j'avais dit qu'on en dirait quand même un mot dans 24 FPS, donc c'est le cas maintenant, 4 mois plus tard. Alors, en gros, vous vous souvenez, il y avait eu une trilogie entre 2000, c'était quoi? C'était entre 2014 et 2017, il y avait eu une trilogie qui avait ses qualités, ses défauts, qui était très intéressante, qui pour moi c'était très très bien terminé avec le troisième. Moi, je trouvais le premier sympa, le deuxième assez moyen, mais le troisième j'avais adoré. Et déjà à l'époque ils avaient dit qu'il y avait pas trop de raisons que ça s'arrête, qu'ils pourraient continuer à faire des suites. En tout cas, c'était ce qu'avait dit Matt Reeves et son scénariste Mark Bombach, en gros. Et puis ensuite en 2019, Disney a racheté la Fox, donc la Fox qui détient les droits de la saga La Planète des Singes. Donc du coup, ça a un peu retardé le truc, mais d'un autre côté, Disney a rapidement annoncé qu'ils allaient continuer à développer cet univers avec de nouveaux films. Et en plus, ce qui se déroulerait, ce serait pas un nouveau reboot, ce serait encore une suite de cette trilogie. Donc, d'ailleurs, c'était pas entre 2014 et 2017, c'était entre 2011 et 2017, la trilogie. En gros, c'est le réalisateur Wes Ball qui a été annoncé à la réalisation, connu pour les films de la saga Le Labyrinthe. Tout ça est un peu vieux pour moi, je me souviens plus trop, mais en gros, Rick Jaffa et Amanda Silver, qui avaient été scénaristes et producteurs de la trilogie, de la dernière trilogie en date, eux reviennent à la production. Le script, par contre, devait être écrit par le réalisateur Wes Ball lui-même en compagnie de Josh Friedman, qui est un gars qui a surtout travaillé à la télé, notamment sur la série Terminator The Sarah Connor Chronicles, et je crois aussi un peu sur comment ça s'appelle, le transpersonnage, la série Snowpiercer. Je crois, de mémoire. Bref. Donc, je vais pas refaire toute la production, mais voilà, on a fini par savoir que ça s'appellerait Kingdom of the Planet of the Apes en VO, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume en VF, que ça se passerait des années, de longues années après le dernier film de la trilogie. Si je dis ça, si j'arrête pas de dire, si je donne aucun des titres, c'est parce que je m'en souviens pas des titres de la trilogie, mais parce que les titres en français n'ont aucun sens. Et déjà, les titres originaux, ils étaient compliqués parce que ça commençait par Dawn, ensuite
Rise.
C'était d'abord Rise, ensuite Dawn et ensuite War. Et pour moi, j'arriverai jamais à me réconcilier avec le fait que ce soit Rise avant Dawn, tu vois, c'est pas possible. Bref, ça n'a pas de sens. Et les titres français sont encore pires. Donc, c'est pour ça que je les cite pas. Mais bref, ici, en gros. Je vais pas aller plus loin sur les détails de la production. Ici, on va je crois qu'il se passe environ 300 ans de mémoire. On va suivre de nouveaux personnages qui n'ont pas connu César, et justement un peu tout le thème du film, ça va être l'héritage de César. En fait, ça va être, on va suivre en fait un jeune singe singe qui s'appelle Noah, qui lui n'a jamais entendu parler de César, dont la tribu va se faire attaquer alors que lui est sur le point de passer à un espèce de rituel pour le passage à l'âge adulte. Toute sa tribu, une grande partie va être tuée, l'autre va être capturée, et il va décider d'aller les sauver. Et sur son chemin, il va rencontrer un espèce de mentor qui pour moi est le meilleur perso, Raka. Cet orang-outan, je l'ai trouvé fabuleux. Et en fait, il va découvrir un petit peu le monde, et on va découvrir un peu ce monde par ses yeux. Raka va lui enseigner les valeurs de César, et on va se rendre compte que le nouveau méchant, qui s'appelle Proximus César, lui aussi se réclame de l'héritage de César, mais avec des valeurs qu'il a un petit peu adaptées à sa sauce. Et voilà. Et ça fait partie des thématiques qui sont abordées dans le film. Je développerai pas beaucoup plus, mais en gros, il y a du coming of age, il y a du passage à l'âge adulte, il y a l'héritage en fait, et ce qu'on peut faire de l'héritage d'un message, et comment il peut être compris ou déformé avec le temps. Il y a des thématiques qui sont inhérentes à la saga, qui sont toujours présentes, la duplicité humaine par exemple, face à parfois une plus grande simplicité de la part des animaux, donc le fait que les humains restent ceux qui ont à l'origine un peu foutu la merde et qui sont a priori pas forcément toujours dignes de confiance. Enfin, il y a vraiment plein de thématiques. Il y a le parcours du héros aussi, hein, le fameux monomythe de Campbell qui est totalement repris, puisqu'on y retrouve on retrouve vraiment quasiment toutes les étapes du monomythe de Campbell dans ce nouveau film, et c'est une volonté de West Bowl. Enfin voilà, je développerai pas beaucoup plus, mais moi j'avais trouvé ça très sympa, visuellement vraiment chouette, vraiment beau, des persos très attachants, notamment Noah, Raka, je l'ai dit, et puis la jeune humaine qui s'appelle May. Donc voilà, ouais, plein de choses, plein de thématiques, riches visuellement. 2-3 détails de scénario qui collent pas tout à fait, mais sans grande gravité. Mmh. Et voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. En fait, c'était plutôt, en fait, si tu veux, l'inquiétude principale, je finirai là-dessus, c'était de dire que c'est Disney qui reprend la franchise et comment Disney la traite. Et finalement, on était plutôt rassurés, le docteur Zaius et moi, sur le fait que ça a l'air. Alors, c'est un soft reboot dans le sens où si t'as vu aucun des précédents, ça marche. Mais si t'as vu les précédents, ça marche aussi. Et si tu sais ce qui se passe ensuite, ça fonctionne à peu près aussi. Donc, c'est plutôt pas mal géré et plutôt encourageant pour la continuité de cette trilogie qui devrait continuer puisque, enfin, il a pas fait un box-office incroyable, mais à peu près correct, quoi. Un film à 160 millions de budget et il a presque fait 400 millions de box-office. Je pense qu'ils en attendaient plus, mais ça va, c'est correct.
Ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais il y a des persos qui marchent pas trop. Je trouve que Mae ou Nova. C'est pas qu'elle marche pas vraiment, mais l'alchimie entre elle et les autres marche pas trop. Ouais, le seul que j'ai trouvé vraiment bien, c'était Raka, comme toi.
Ouais.
Et Noah est ok, mais
sans plus.
Ouais, sans plus. Je trouve pas qu'il y a l'énergie de César.
Non, c'est vrai. Je pense qu'il y a pas le même talent d'acteur derrière. De la part d'Owen Teague, du jeune Owen Teague, mais je trouvais que c'était quand même pas mal. Je veux dire, le film tient la route. Je rappelle que c'est quand même
ça tient la route.
Voilà, c'est quand même un film dont le personnage principal n'est pas humain. C'est quand même extrêmement rare dans le paysage des blockbusters actuels.
C'est moins osé que. En fait, ça tient la route et c'est pas mal, mais c'est le moins bon du reboot.
Ah ouais.
Je trouve.
Okay. Ouais.
Entre les précédents, tu trouves qu'il est aussi bien?
Moi je le trouve mieux que les deux premiers de la trilogie.
Ah ouais, non. Et je trouve que dans Down,
donc le deuxième,
c'est dans Dante que toute l'intro, l'intro elle est osée.
Oui,
hein,
l'intro aussi. Elle était incroyable. Oui, oui. C'était quoi, 20-25 minutes que parmi les singes, ouais. Sans le moindre humain et sans la moindre parole humaine. Ouais, ouais, ouais. C'était fou. Et visuellement, c'était fou. Ouais. C'était fou aussi.
Donc, ouais, non, je trouve que les. C'est juste un peu plus. Je sais pas, je ressens moins une patte d'auteur, tu vois. Je trouve que c'est plus un film générique. Mais un bon film générique, mais plus générique.
Je suis pas en désaccord avec ça. Je pense qu'il y a une volonté justement de soft reboot et de rendre le truc un peu plus accessible à une nouvelle génération avec une histoire qui est finalement assez classique, d'où le monomythe de Campbell. Donc je suis pas en désaccord avec ce que tu dis là, oui. C'est un peu moins inventif, mais moi je trouve ça encourageant pour la suite. Parce que même si c'est en apparence assez classique, je trouve qu'il y avait quand même deux, trois choses que j'avais pas forcément vu venir et qui peuvent donner des choses intéressantes pour la suite, qui peuvent continuer à être développées pour continuer à être assez inattendues, quoi.
Non, mais je suis pas, j'irai voir le suivant, tu vois. C'est juste que j'ai trouvé que c'était un peu moins bien.
Ok. Moi, j'ai pas, voilà, moi, j'ai fini.
C'était il y a très longtemps aussi.
C'était il y a vraiment super longtemps. C'était début mai. Ouais. Ok. Écoute, je te passe la parole. Parle-nous un peu de Pullman, qui est réalisé par Chris Pine.
Et avec Chris Pine.
Et avec Chris Pine.
Avec un cast quand même vachement sympa. Il y a Danny DeVito.
Ah ouais.
Jennifer Jason Leigh, Annette Bening. Et puis des gens un peu moins connus, mais que tu vois souvent, tu vois. Ça me fait un peu penser, je me rappelle plus du nom, mais il y avait un film avec qui avait été fait par ceux de It's Always Sunny in Philadelphia, dont j'ai parlé l'année dernière, qui était une comédie à Hollywood, un peu satirique en principe, mais que ça marchait pas.
Ouais.
C'est pas le même sujet, mais c'est une comédie slash mystère, tu vois, genre un peu à l'ancienne crime mystery,
d'accord,
mais sous le ton comique, pas le ton sérieux. Mais c'est un peu le même niveau d'échec, parce que ça croit que ça marche et le cast est, je pense, est gentil d'être là, mais le scénario et la réal est vraiment à chier, quoi. Ouais, c'est l'histoire d'un pool cleaner, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Pullman.
Ouais, un nettoyeur de piscine.
Ouais, qui vit dans une caravane à côté de la piscine d'un. Bon, il y en a beaucoup à Los Angeles en particulier, il y en a moins dans les autres. Il y en a en Floride et tout ça. Mmh. C'est des complexes d'appartements, tu vois, les motels où il y a la piscine au milieu.
Oui, oui, je vois très bien.
Sur deux étages en général.
Donc
assez typique des séries. Genre, je crois que Melrose Place, ça se place dans un truc comme ça, non? J'ai jamais regardé.
Je suis incapable de te répondre.
Trop vieux, en fait. Je sais pas pourquoi j'utilise ça comme référence. Soit, ce genre d'appartement. Donc, et donc,
excellent.
Pour je ne sais quelle raison, il est en charge de s'occuper de la piscine et il vit dans une caravane à côté de la piscine.
Ok.
Et il est aussi super fan de. Il est fan de Erin Brockovich. Mais il est fan d'Erin Brockovich parce qu'il va tout le temps faire chier le gouvernement local pour des pétitions, pour comment améliorer la ville, quoi, tu vois.
D'accord.
Et ça l'emmène sur une enquête où il pense qu'il y a de la corruption et du crime dans le gouvernement local. Et c'est ça le pitch.
Okay.
Mais ça prend jamais, quoi, tu vois. La sauce marche, ne prend jamais. Personne... c'est pas Bruce Willis qui a pas envie d'être là, tu vois. Tout le monde a l'air content d'être là, mais j'ai un feeling un peu genre c'est un film pour nous, tu vois, c'est un film private joke. Je ressens pas un talent de réal ou un talent de savoir comment diriger l'action, de comment monter le film.
D'accord.
Donc c'est un peu dommage. J'aime bien Chris Pine, mais voilà. Assez décevant comme premier essai.
Ok. Ok, ok. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, il y avait un événement organisé à Metz par le podcast Le Cadran Pop, que les fans de Star Trek connaissent, j'imagine. Si vous connaissez pas, bah allez vous gaver de Star Trek avec Le Cadran Pop. Et ils ont repassé le premier Star Trek, donc du reboot, sur J.J. Abrams, donc avec Chris Pine, hein, qui reprenait le rôle de Kirk. Et franchement, mais il est tellement génial en Kirk, quoi. Il fait des étincelles. Je sais que c'est pas le seul bon truc qu'il a fait, mais quand même, il était assez parfait, parce que le personnage de Kirk peut être à la fois imbuvable et assez héroïque, et il y a une, tu vois, il faut arriver à trouver comment le jouer, et franchement, Chris Pine était parfait, quoi. Donc, ouais. Mais là, ouais, ce Pullman, alors, n'a pas de date de sortie en France, donc, voilà.
C'est pas grave.
Ouais, a priori, c'est pas très grave. Ok. Ok, ok, ben bah écoute, si t'as terminé...
Tu as la page wiki ouverte, par hasard?
Ah non, non, pourquoi? Okay.
Je te lis la critique en anglais et tu la traduis à notre audience.
Oui.
It is only 100 minutes long, but upward of 99 of those minutes are likely to be spent in silent boredom. Irritated disbelief at being subjected to such... Gilles Heartless Nonsense. C'est violent, hein. C'est méchant.
C'est assez bourrin. Il me manque un bout de la deuxième phrase, mais la première phrase qui dit en gros que ça dure 1h30, mais que 99%.
Non, 1h.
1h, pardon.
1h40.
1h40, oui. Okay.
100 minutes.
Ah oui, ok, oui, oui. Mais, ah oui, d'accord, c'était ça.
But
c'était
upward of 99 of those minutes.
Ah oui, ok, ça dure que 100 minutes, mais en gros, on se fait chier, silencieusement pendant 99 de ces 100 minutes, quoi.
Wow. Pendant plus que 99.
99, enfin, c'est ouf, en fait. Ouais, ok.
Et après, c'est, ou irritated, donc, je sais pas, ennuyé, ou.
Oui. Oui, même agacé, je dirais.
Ouais,
même.
Agacé, ouais, ouais. D'être sujet à ce nonsense.
Ce non-sens, sans art. Enfin, ouais, c'est pas évident à traduire, mais.
C'est méchant.
Ouais, c'est méchant.
Très méchant.
C'est clair.
C'était pas aussi violent, mais. Ouais. Ouais. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine que ça sorte.
Ah, effectivement. Putain. Bon. Très bien, très bien. C'est rigolo parce que cette critique pourrait s'appliquer au nouveau film de Coppola, selon moi. Et encore, je la trouverais gentille avec le Megalopolis que j'ai vu il y a quelques jours. Bref, ça, on en reparlera un jour.
On fera un full.
Oh bah non, alors là, sûrement pas. Alors, je serais bien incapable d'expliquer quoi que ce soit de ce délire que j'ai vu. Et dont
ah,
j'ai
le projet
été...
est intéressant quand même.
Ah, le
projet,
oui.
C'est...
Il y a
le projet, tu pourrais parler pendant longtemps, parce que
oui,
c'est quand
vrai.
Même un truc complètement déconné.
Oui,
la...
oui.
Le fait qu'il ait vendu quand même plein de trucs pour
ouais,
faire
ouais.
ce film. Hein.
Il a vendu ses vignes pour financer le film. Enfin, mais quand tu vois le
c'est
film,
c'est une
ça fait...
super belle.
Ça fait mal.
Son... Je sais pas comment on appelle ça, mais là où il a ses vignes.
Ah, son domaine.
Tu peux aller, tu vois, ouais. tu peux aller passer la journée, il y a des restaurants, etc.
Mmh.
C'est super beau.
Ouais.
C'est. Il y a beaucoup à dire, je pense, sur Megalopolis, juste à mon avis, pas le film.
Pas le film, mais par contre, tout ce qui a mené au film, oui, c'est assez fou. C'est quoi, c'est 40 ans de développement, c'est un truc de malade. On en parlera.
Le cast est ouf.
Le cast est incroyable, mais très mal utilisé, mais incroyable. Enfin, tout est fou. Sauf le résultat, en fait. Le résultat, mais du coup, prend une mesure presque irréelle quand on voit tous les moyens qui ont été développés pour accoucher d'une merde pareille. Enfin, c'est hallucinant.
Si vous voulez ennuyer Jérôme, vous pouvez peut-être dire que c'est un peu comme Cloud Atlas.
Oh, ça, quoi ? Ça va pas ou quoi ? Non, mais tellement pas.
Oui, ça marche bien. Ouais.
Bon, bref, excellent. Effectivement, ça marche un peu trop bien. Alors, de quoi je devais parler, moi ? Mon truc est pas dans le bon ordre. Ah oui, de Nicky Larson sur Netflix, qui est évidemment pas le titre original de ce film japonais réalisé par Sato Yuichi, qui s'appelle donc en VO City Hunter, comme le manga dont il est inspiré, City Hunter de Tsukasa Hojo. mais qu'en France on connaît sous le titre Nicky Larson. Donc bah en gros ça reprend le tout début de l'histoire, ça nous montre en fait comment Ryo Saeba travaillait avec son collègue Hideyuki Makimura, mais ce dernier se fait tuer et Ryo Saeba se retrouve un petit peu seul et il va rapidement faire la connaissance de Kaori, la sœur de Hideyuki. Et en gros, ils vont plus ou moins s'allier pour une nouvelle enquête. Voilà quoi. C'est vraiment l'origin story de City Hunter. C'est la première fois que les Japonais adaptent City Hunter en film. Et là, normalement, vous me dites, non, il y avait un vieux film. Il y avait pas un film avec. Jackie Chan, si, oui, mais c'est un film hongkongais, donc pas japonais. Il y avait aussi évidemment l'adaptation française par Philippe Lachaud que j'avais pas détesté, j'avais pas adoré, mais que j'avais pas détesté non plus. Mais voilà, c'est la première fois que les Japonais adaptent City Hunter. Et alors ils ont un peu réajusté le personnage, notamment le côté obsédé sexuel et complètement pervers a vachement été adouci par rapport au dessin animé, ou qui lui-même était déjà vachement adouci de ce côté-là par rapport au manga original. Et d'un autre côté, Kaori, elle est un peu, comment dire, elle est un peu plus indépendante, elle est un peu plus, elle est moins, je sais pas comment dire. Disons qu'ils ont un peu mis ça au goût du jour, et puis ça marche. Il y a aucune trahison, ça marche. Moi, j'ai trouvé le film sympa, rigolo. L'acteur Ryohei Suzuki qui interprète Ryo Saeba, franchement, il se donne à fond, et c'est vraiment pas facile d'adapter Ryo Saeba en film live, parce qu'il fait quand même beaucoup de pitreries. En fait, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a des moments où il doit être ultra sérieux, ultra badass, et d'autres moments où c'est un débile complet, quoi. Et donc ça, pour le jouer, en plus il y a toute une gestuelle qui est vraiment pas évidente, et franchement le mec s'en sort bien. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa. Pas incroyable, mais vraiment sympa. Il y a des grosses scènes d'action qui sont débiles, les scènes d'action, il y a rien de réaliste, mais ils ont mis le paquet, et puis voilà, ça marche bien. Moi, mon seul coup de gueule sur ce truc-là, c'est le fait qu'en France, ils ont changé les noms, en fait. Pour moi, c'est honteux qu'en France, en fait, on renomme Ryo Saeba en Nicky Larson, on renomme Kaori Makimura en Laura, et on renomme Hideyuki en Tony, et la policière Saiko, qui est renommée Hélène. Alors certes, c'était les prénoms du dessin animé de notre enfance, mais tous ces doublages à l'époque, quand on était gamin, massacraient les œuvres originales. Ok, on a grandi avec, et on s'y est fait, et ça donnait presque parfois des œuvres presque différentes de la version originale, dans le sens où ça changeait complètement la tonalité du truc. Chez nous, ça a été le cas, donc notamment pour City Hunter, Nicky Larson, et aussi pour Ken le Survivant, où justement les doubleurs faisaient les débiles pour apaiser un peu le côté violent de ces dessins animés qui n'étaient pas destinés aux enfants. Parce que le problème, il était surtout là, c'était qu'à l'époque, ils achetaient tout et n'importe quoi, et ils n'avaient aucune idée de la différence entre un shoujo manga, un shonen ou un seinen, et là Nicky Larson ou Ken le Survivant, c'était plutôt du seinen a priori, sauf que une fois que c'était acheté, donc il fallait bien le diffuser, et donc ils s'étaient lâchés sur les doublages parce que sinon ils pouvaient pas les diffuser globalement, voilà. Bref, mais ça c'est un truc qui appartient au passé, et moi je suis pas vraiment ok de regarder un film japonais, même si je le regarde en version française, je suis pas ok pour que lui s'appelle Nicky, elle s'appelle Laura, c'est ridicule. Je sais pourquoi ils le font, pour des raisons globalement commerciales, mais pour moi ça dénature le film, et ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui, en fait. Voilà. Normalement, si t'as vu ne serait-ce que 3 épisodes du dessin animé quand t'étais gamin, même si ça fait une éternité que t'en as pas vu, même si tu savais pas que en VO il s'appelait Ryo Saeba, Kaori, Saiko ou Hideyuki, tu regardes le film, même avec les noms japonais, tu t'en sors très bien, tu reconnais les personnages, tu sais très bien de qui il s'agit, quoi. Voilà. Bon, ça me gonfle. C'est pas très grave, je pense. C'est pas du grand cinéma non plus, mais j'apprécie pas trop la démarche. Voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'était voilà, j'ai passé un moment correct. C'était sympa, ça m'a même arraché quelques sourires. Franchement, le mec il se donne à fond et c'est pas facile de faire City Hunter en live, donc ils s'en sortent plutôt bien. Voilà, c'est disponible sur Netflix depuis le 25 avril dernier. Voilà.
Okay. C'est moi qui enchaîne.
Ouais.
I saw the TV glow.
Tiens donc, j'ai vu la télé briller.
Jane Schoenbrunn.
Ouais, je pense que ce sera Schoenbrunn, ouais. Sachant que ce dont tu vas nous parler là sort le 30 septembre en France, en VOD par contre, uniquement, en VOD. Voilà, mais pour Halloween peut-être, dis-nous, est-ce que ça vaut le coup?
C'est pas inintéressant. Il y a quelques problèmes, mais ça vaut la peine d'être regardé. C'est avec Justice Smith qui était dans Détective Pikachu. C'était
probablement
un des persos. J'essaye de voir là où je l'aurais vu.
Je me souviens plus trop.
Et il était dans Dungeons & Dragons aussi.
Ah oui.
Bon, c'était un gros cast,
oui.
Mais c'était un du cast. Et Bridget Lundy Payne que je ne me rappelais pas d'ailleurs. Et donc ces deux adolescents et qui regardent une série pour young adult qui est un peu genre comment ça s'appelait le truc de science-fiction, la quatrième
dimension, Twilight Zone.
Ouais, Twilight Zone.
Ok.
Un peu dans le même style mais plus pour young adult, quoi. Donc ça parle.
D'accord.
Et c'est vachement kitsch dans le look. Enfin, ça a l'air vraiment low budget, quoi, tu vois.
D'accord.
Et okay. C'est juste qu'ils ils deviennent amis en regardant cette série-là.
Mm-hmm.
Ouais, c'est un mélange entre. C'est un peu bizarre parce que c'est traité comme un film d'horreur et A24 l'a vendu comme un film d'horreur. Mais c'est pas vraiment ça. C'est plus un film sur la psychologie de fit-in à l'école et de fit-in dans ta peau. Mm-hmm. Donc d'être bien dans ta peau, d'être. De montrer au monde la personne que tu es.
Okay.
C'est un peu ça les sujets du film. C'est un peu compliqué sans spoiler, tu vois. Donc, et vu qu'il sort bientôt, j'ai pas envie de spoiler.
Ouais.
Mais si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, ça vaut la peine d'être regardé. Il y a des moments un peu longuets. Ça manque un petit peu de direction. Ça manque un petit peu d'un arc narratif qui fonctionne bien. Il y a quelques twist qui je trouve marche pas super bien, mais les thèmes du film valent quand même la peine d'être vu.
Alors du coup, je pose quand même la question. Du coup, c'est un film qui fait un peu peur ou c'est plus un film qui fait réfléchir du coup, parce que
plus qui fait réfléchir. Ah, c'est okay. Pas un film d'horreur. Je trouve pas que ça aurait dû être vendu comme un film d'horreur. Je pense que c'est vendu comme un film d'horreur parce que ça se passe souvent la nuit, parce que leurs parents veulent pas qu'ils regardent ça. Enfin, un des deux parents veulent pas qu'ils regardent ça.
Mmh.
Et donc, tu sais, ils le font quand leur famille dort, etc.
D'accord.
Mais c'est pas du jumpscare, c'est pas un film d'horreur, c'est plus un film sur la personnalité.
Mmh. Ok.
Ouais. Donc, et la réalisatrice, j'avais pas vu avant, mais la réalisatrice en a parlé plusieurs fois que c'était une allégorie pour le fait d'être transgenre.
Ah, ok, d'accord.
Donc c'est un peu ça que ça parle. Mais c'est intéressant. Et il y a des beaux visuels et il y a des belles musiques, enfin des musiques intéressantes.
D'accord.
Dans des tons un peu fuchsia. Mm. C'est visuellement intéressant et le côté kitsch de la série est pas mal aussi, c'est marrant. C'est très, Power Ranger. Enfin, tu vois, c'est très les séries qu'on regardait quand on était jeune, quoi.
Ouais, ouais.
Ça a l'air très fort en carton, etc.
Ok. Ok, ok. Bon, I Saw the TV Glow. Ça sort le 30 septembre en VOD. Intéressant, pourquoi pas. D'accord. Je vais rester hors du cinéma avec Atlas, un film Netflix. sorti le 24 mai, donc qui était annoncé un peu comme une grosse production de science-fiction. Pas grand-chose d'ailleurs à dire sur la production elle-même. C'est un film Netflix, voilà. il y a rien en fait, il y a pas d'infos. A priori, le budget est de 100 millions de dollars. Ça c'est surprenant parce que c'est rare qu'on ait les budgets des films Netflix. Donc gros film de science-fiction, enfin gros, ouais, ou semi-gros film de science-fiction, réalisé par Brad Peyton. Brad Peyton qui avait réalisé surtout des films un peu des films catastrophes, notamment San Andreas en 2015 avec The Rock et Rampage aussi en 2018 avec The Rock, avec le singe géant qui protégeait la ville. Voilà, des choses comme ça. Voyage au centre de la Terre 2 aussi, avec toujours The Rock. Et la série Netflix Daybreak, que je n'ai pas vue. Voilà pourquoi est surtout connu Brad Peyton. Alors, Atlas, c'est un film avec Jennifer Lopez dans le rôle principal. C'est un film de science-fiction pure où des intelligences artificielles se sont rebellées contre les humains et sont en train de faire la guerre aux humains, mais sur une autre planète, si ma mémoire est bonne. Ça fait longtemps que la guerre a cours, et en gros, parce que je m'en souviens pas bien. Jennifer Lopez, je crois que c'est une spécialiste en intelligence artificielle ou quelque chose comme ça. Mais du coup, elle a un passif un petit peu complexe avec les IA. Du coup, c'est pour ça un peu qu'elle est recrutée, parce que voilà, je sais plus. Enfin, il y a un truc à faire, il y a un move à faire pour essayer de gagner la guerre, ou en tout cas pour éviter de la perdre. Donc, ils ont besoin d'elle, donc ils vont l'envoyer en mission. Sauf qu'en fait, ça va pas se passer comme prévu. Elle va se retrouver isolée. Elle va se retrouver toute seule. Alors dans une armure un peu méca. Voilà quoi. Elle est à l'intérieur de cette grosse armure qu'elle dirige, donc voilà, pour les fans éventuels de Avatar ou de la fin de Aliens, si vous voyez de genre de type d'armure dont je parle, ou éventuellement même de le film de Guillermo del Toro, là, comment ça s'appelait, Pacific Rim. Voilà. Alors c'est des robots qui sont loin d'être aussi géants ici. Ils sont un peu plus petits que dans Pacific Rim, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Elle est dans le robot, puis elle contrôle le robot, puis ça lui permet de combattre des trucs et tout. Sauf que en fait, le robot qu'elle dirige, il serait vachement plus efficace s'il pouvait fonctionner avec une IA. Or elle est complètement anti-IA et donc elle refuse. Et en fait, elle est d'ailleurs, elle veut pas du tout travailler avec cette IA, mais elle avec ce robot même tout court. Mais elle a pas le choix, parce qu'elle reste toute seule et elle est dans le robot, et donc il faut bien qu'elle fasse quelque chose, ne serait-ce que juste essayer de survivre. Bon, c'est assez rocambolesque. C'est le scénario est aussi entre le bidon déjà vu, voire le franchement ridicule, mais ce n'est jamais aussi ridicule que Jennifer Lopez elle-même. Alors elle bat des records, c'est absolument fantastique. Rien que pour ça, le film mérite d'être vu, parce que c'est à mourir de rire en fait, tellement elle joue mal. Parce que elle a personne en face en fait. Elle est assise dans le robot et donc elle parle au robot, mais elle parle, voilà, elle doit regarder dans le vide, tu sais, pour parler au robot. Et donc, il y a des moments où elle s'énerve, il y a des moments, enfin, elle fait des tas de trucs. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de plans sur elle, juste sur elle, qui parle au robot, tout en étant dans le robot. Et c'est à mourir de rire, en fait, tellement elle joue mal. Mais vraiment, hein, c'est catastrophique. Le film a un budget, je pense, assez conséquent en termes d'effets spéciaux, parce que le film est très 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 généreux en effets spéciaux, en plan CGI, en plan en images de synthèse. Il y a vraiment beaucoup beaucoup des plans qui sont pas toujours très beaux, qui sont pas très fins, en tout cas c'est pas les meilleures images de synthèse que j'ai pu voir, mais par contre c'est ultra généreux, et ça m'a plutôt plu. Voilà, pour les fans de science-fiction, c'est sympa en termes de visuel pur de science-fiction. Et mais on n'est pas loin du nanar, vraiment, sur le scénario et sur le jeu de Jennifer Lopez, c'est vraiment ridicule. Les rebondissements du scénario sont tout aussi ridicules. les gens qui ont écrit ce film, qui parle quand même beaucoup d'intelligence artificielle, ne comprennent rien à l'intelligence artificielle. Clairement, on est sur des clichés de l'intelligence artificielle au mieux. Il y a une scène, alors je vais pas, ça spoil rien, hein, c'est juste, ça parle même pas vraiment d'histoire, mais c'est juste que il y a un moment où, parce que les intelligences artificielles en fait sont personnalisés dans des corps, tu vois, des corps qui ressemblent à des humains en fait, sauf que c'est des IA. Bon, ça rend la menace, on va dire, plus concrète, on va dire. Ce sont des personnages qu'il faut tuer, quoi. Et en fait, il y a un moment où il y a un des lieutenants de l'intelligence artificielle en chef qui, je sais plus, qui va tuer, je sais plus qui va tuer certainement des gentils ou un truc comme ça. Je rappelle, hein, je spoil rien. J'avais dit qu'elle va finir par se retrouver toute seule. Hein, donc c'est quelque chose dans ce cadre-là. Donc il tue des gentils et pour prévenir, donc c'est une intelligence artificielle, hein, le méchant, et pour prévenir son boss qui est l'intelligence artificielle en chef, il l'appelle avec une radio pour lui dire c'est bon chef, je les ai tués, ou et pas avec une radio mais ou avec un, je sais plus, un système holographique, un truc, enfin c'est ridicule en fait, ça n'a aucun sens, les mecs, vous êtes des intelligences artificielles mais vous n'êtes même pas connecté, vous n'avez pas de transmission informatique instantanée. Enfin, le mec, il est obligé d'appeler l'autre en visio pour lui dire « C'est bon, chef, je viens de tuer des gentils. » Enfin, ça n'a aucun sens, c'est vraiment ridicule. Mais voilà, c'est... Je me suis bien éclaté devant ce film en fait, parce que visuellement c'est très généreux, c'est drôle, voire involontairement drôle à cause de toutes les grimaces de Jennifer Lopez. C'est pas bon du tout, mais ça m'a fait marrer. Donc voilà, Atlas, c'est sorti sur Netflix, c'est pour fans du genre, fans de science-fiction, fans de films un peu ridicules, ou fans de Jennifer Lopez. Voilà. Atlas.
Il y a des fans de Jennifer Lopez?
J'en sais rien. Bah, il y a Ben.
Enfin, elle a quasiment fait. Je suis pas sûr qu'il est très fan.
Bah, c'est, oui et non, parce que je sais qu'ils ont annoncé qu'ils divorçaient, mais d'un autre côté, ils ont été vus ensemble en train de se faire des bisous il y a pas longtemps. Donc, bref, je comprends rien à leur histoire.
il vaut mieux qu'elle se cache.
Oui,
tant
par
que
contre.
Didi est pas en prison.
Oui, par contre.
Enfin, tant
oui.
que Didi est pas jugé.
Oui, alors pour ceux qui seraient pas au courant, mais je maîtrise pas bien le sujet non plus, mais il y a celui qu'on appelait autrefois Puff Daddy, qui vient de se faire arrêter, et il y a du gros, 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 gros dossier a priori sur lui, parce que déjà lui est un sacré pervers sexuel apparemment, mais en plus sur toutes les grosses stuff qu'il organisait chez lui et toutes les stars qui étaient invitées. Et Jennifer Lopez à une époque était sa fiancée ou sa petite amie,
sa
ou
copine.
Je ne sais plus, sa copine, ouais.
Donc il y a toujours eu une rumeur que c'est elle qui avait amené une arme qui avait été utilisée dans un shooting, enfin c'est lui qui le disait, hein, qui se vantait qu'il avait utilisé J-Lo pour amener une arme dans un club.
Ah
pour,
ouais.
Je sais pas si c'était tuer quelqu'un d'autre ou juste les blesser. Mais...
Ok.
Ce serait une affaire intéressante à suivre.
Je pense qu'il y a des choses qui vont sortir. Ouais. Et il y en a plus d'un à Hollywood
qui doit
trembler.
Bien stressé.
Ouais. C'est clair.
Bien stressé.
Ouais.
Honnêtement, Jennifer Lopez, je crois que à part dans Hustler, elle a toujours été nulle à chier. Peut-être dans Selena, il y a très longtemps, c'était avant qu'elle soit vraiment connue. Parce que dans les trucs de, elle était pas dans un truc de Kevin Smith?
De Kevin Smith?
Non, peut-être pas.
Ça me parle pas.
Non, mais elle était dans un truc avec Ben Affleck. C'est à ça que je pense.
Ah, ok.
Enfin, pour moi, quasiment tous ses films, elle est nulle à chier, quoi.
Ok.
Je la trouve particulièrement détestable comme personne. En interview, je la trouve arrogante à crever.
Ah, je connais pas, je sais pas trop.
À part Hustler, qui était vraiment impressionnant.
Moi, j'ai un très bon souvenir de The Cell, par contre. Qui était un film
un peu
à part.
The Cell, c'est vieux.
The Cell, c'était pas mal.
C'est le premier film que j'ai vu. C'était un film moins de 16 ans, tu vois.
Ouais.
Ah. Et c'est le premier film que j'ai vu après avoir 16 ans.
Ah, excellent. Pas mal.
Ouais, je me rappelle. Est-ce qu'il est sorti en novembre 2000? Ouais, je me rappelle de ce scène. Mais par contre, je me rappelle plus d'elle dedans.
Ok, il me semble qu'elle était plutôt bien, mais c'est un film très intéressant, The Cell. Par contre, j'ai jamais vu son chef-d'œuvre qui est Anaconda. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas vu.
Il a fait grand chose, hein, ce réalisateur-là, qui a fait The Cell.
Non, c'est vrai. Bah, il avait sorti un truc longtemps après, mais qui était très mauvais. Et je crois qu'il s'en est jamais remis. C'était, ah oui, Tarsem Singh.
Il a fait quelques films, mais ouais,
il avait fait Immortel, ouais, Les Immortels en 2011, et c'était mais tellement mauvais, c'était kitschissime à souhait.
Et ouais, il a un film prévu après.
Ok.
Ah oui, mais ok. Mais
un film prévu, mais en 2023. En...
Ouais. Ouais, mais ça a l'air d'être aussi en Inde. Donc...
Très bizarre. Ah oui, d'accord. Ok.
Soit.
Bref, Atlas, très drôle, mais pas bon. Voilà.
J'enchaîne sur probablement un de mes préférés de notre sélection.
Oui.
Babes de Pamela Adlon avec. Je sais pas comment dire son nom. Yana Glazer, qui est, c'est aussi la scénariste. Et Michelle Buteau, qui est une comédienne de stand-up.
Okay.
Bon, le pitch, et c'est pour ça que c'est le film favori de Jérôme
J'en doute. J'en doute.
C'est Bridesmaids, mais pour le fait d'être enceinte et de donner naissance.
Ok, donc Bridesmaids qui s'appelle Mes meilleurs amis en français. Je déteste ce film. Je le trouve jamais drôle. Et au contraire, il m'énerve en fait de A à Z. Donc si c'est le même style, bonjour, quoi.
C'est un peu le même style, parce que, c'est le même style d'humour un peu osé, quoi, tu vois.
Okay.
Parce que ça. Une des scènes d'intro, c'est que. Comment est-ce qu'on dit quand une femme est enceinte et qu'elle.
Elle. Quoi.
Perd les os.
Elle perd les os, oui.
C'est ça qu'on dit.
Ouais.
Mais c'est montré, tu vois, en général, c'est montré où c'est juste une petite. Enfin, c'est pas une flaque, quoi. Et là, okay. c'est un peu. En fait, c'est très crasse, tu vois, comme humour. Mais crasse sur un sujet qui est rarement osé d'être poussé
oui,
aussi
vrai.
Loin.
C'est vrai.
Mais c'est super bien écrit. Les deux actrices principales sont excellentes. Dans les rôles en support, il y a aussi Hassan Minhaj, qui est un comédien de stand-up, mais qui est connu pour une série Netflix qui s'appelait Patriot Act.
D'accord.
Qui était un peu genre la Street to Meet. Et qui est un comédien de stand-up que je trouve assez amusant. Il a été semi-cancel, je crois, c'est pour ça qu'il a été un peu moins populaire. Mais...
D'accord.
Ouais. Il est très fan ici. Et... Donc, en dehors du fait que c'est de l'humour, tu vois, comme ça, mais c'est aussi sur l'impact d'avoir un enfant sur, sur tes amitiés. Comment tu gères le fait que quelqu'un grandit et l'autre pas vraiment, tu vois, vu que elle continue sa vie normale et elle était déjà un peu irresponsable au début. En fait, c'est sur deux meilleurs amis et le changement de leur vie autour du fait qu'elle donne naissance.
Okay.
Le côté Bridesmaids, c'est le côté humour très borderline vulgaire, quoi, tu vois.
Ok.
C'est assez rare que ce sujet-là soit traité de cette manière-là au ciné. Ouais, moi je me suis vraiment bien. C'est super bien écrit parce que c'est vulgaire, mais c'est quand même super fin, tu vois. Donc c'est
ouais,
pas.
J'imagine, ouais.
C'est pas juste vulgaire pour être vulgaire, tu vois. C'est juste un peu choquant pour un petit peu te pousser hors de ta zone de confort, mais ouais. C'est très amusant.
Ok.
Je conseille.
Ok. Babes. Alors, est-ce qu'il y a une date de sortie? Je sais plus. Babes. Non, pas de date de sortie. Babes, réalisé par Pamela Adlon, qui était une actrice que j'adorais dans la série Californication. Mais je savais qu'elle était aussi productrice et qu'elle avait déjà fait d'autres trucs. Donc, ok.
Mais ouais. Elle est aussi dans Louis, dans plein de saisons.
Oui,
de Louis.
Oui, c'est vrai. Elle était dans Louis aussi. Exact, exact.
C'est un des gros persos de Louis.
Ouais, c'est vrai. Ok, bon, Babes, voilà, débrouillez-vous pour le voir.
Ouais, en tout cas, ça vaut la peine.
Apparemment, ça vaut la peine. Il n'y a pas de distribution officielle en France pour l'instant. Ok, je reste moi toujours sur Netflix avec un film qui a fait sensation, pas forcément pour sa qualité, ça c'est un autre sujet, que je vais aborder rapidement. Donc on parle de Sous la scène, film français le plus vu de toute l'histoire de Netflix. Film franco-belge d'ailleurs pour être tout à fait complet, réalisé par Xavier Jans, plutôt un habitué hein, des films d'horreur, des films ou d'horreur ou plutôt violents. Même s'il s'était fait connaître avec la première adaptation... oula, non, attends, je vérifie parce que je veux pas dire de bêtises. Hitman... Oui, c'est ça, c'était la première adaptation au ciné du jeu vidéo Hitman, c'était bien ça. Sachant qu'il y en a eu d'autres depuis. Mais voilà, mais il avait fait Frontières en 2007, que moi j'avais vu au Festival Gérard Armé, qui est un des films les plus gore et les plus violents que j'ai vus sur un grand écran, dont j'ai plutôt un bon souvenir. Maintenant, j'avais vu un ou deux autres trucs que j'avais beaucoup moins aimé, notamment The Divide, film post-apo. Et après, j'avais un peu lâché l'affaire. Donc, ouais, j'ai pas trop vu les suivants. Mais voilà, il revient avec Sous la scène, donc une production Netflix... on va dire d'envergure pour la France. On parle d'un film à presque 20 millions d'euros, quand même, ce qui pour la France est vraiment pas mal. Alors au niveau du scénario, on retrouve notamment Yannick Dahan, pas tout seul, mais Yannick Dahan. Alors pour ceux qui connaissent Yannick Dahan, c'est un journaliste français, critique de cinéma, mais aussi réalisateur et scénariste, puisqu'il avait déjà fait son film qui s'appelait La Horde. Ouais. Faudrait que je le revoie, qui était pas trop mal, mais qui était pas de mémoire non plus d'une originalité folle. Voilà, moi je l'aimais bien pour ses chroniques dans Opération Frisson sur Ciné-Cinéma. Maintenant, il fait du podcast. Il fait partie de l'équipe de Capture Mag, et puis il a même son petit format à lui qui reprend un peu ce qu'il faisait dans Opération Frisson. Ça s'appelle La Minute Yannick Dahan, qu'on peut voir sur YouTube, mais que moi j'écoute en podcast, donc sur le flux de Capture Mag. Bref, voilà, un spécialiste, en tout cas un grand spécialiste du cinéma de genre, donc qui a participé à l'écriture de Sous la scène. Sous la scène, alors c'est un truc tout simple hein, c'est l'histoire d'avoir un ou des requins qui sont présents dans la scène à Paris. Alors à la base, je crois que le projet c'était en préparation des événements du 14 juillet, et puis finalement ils ont changé ça, je crois, en cours de route pour que ce soit une épreuve. Il y a des épreuves olympiques, enfin pas peut-être pas olympiques, mais des épreuves d'athlétisme et notamment de natation dans la Seine, au même moment où un requin se retrouve dans la Seine. Donc on a dans le rôle principal Bérénice Bejo, que j'attendais pas forcément sur un film comme ça, mais pourquoi pas. Elle s'en sort d'ailleurs plutôt bien. Je vais pas spécialement mentionner les autres, mais il y a des activistes genre Sea Shepherd, tu vois, mais hyper cliché, bobo parisienne, à mon avis ça rend pas vraiment service aux activistes, la façon dont ils sont montrés dans le film. Il y a des flics aussi, mais alors il y a des flics super sympas, mais vraiment hyper beaux gosses et très sympas, enfin c'est n'importe quoi. Bref, tout ce petit monde donc se retrouve. D'abord c'est les activistes qui sont au courant qu'il y a un requin qui a remonté jusqu'à la Seine, puis le personnage de Bérénice Bejo globalement connaît ce requin puisqu'il a tué tous ses amis, je sais plus, un an avant ou un truc comme ça. Donc elle est la seule à comprendre et à essayer de prévenir tout le monde, la mairie, les flics, et personne la croit, exactement comme dans Les Dents de la Mer. Bref, il y a rien de très original là-dedans. C'est un film clairement de série B. Après, ça ne se prétend pas révolutionner le genre du film de requin. Hein. Moi j'ai trouvé ça longuet à démarrer, mais on va dire dans le dernier tiers ou dans le dernier quart. J'avoue que le film m'a plutôt agréablement surpris par sa bêtise d'une part, mais aussi par le jusqu'au boutisme des scènes quoi. Ils ont vraiment mis le paquet. Et j'avoue que si j'ai regardé les trois quarts du film avec un ennui un peu poli, sur la fin, ça devient tellement n'importe quoi que ça m'a éclaté et que j'ai trouvé ça génial. Donc voilà. Donc rien que pour le final, ça vaut le coup d'être vu. C'est complètement stupide, mais très efficace, très fun, très violent. Ça tient ses promesses en fait. J'avais vraiment peur d'un truc, tu vois, qui n'assume pas vraiment le côté bis de du requin dans la scène. Et pendant les trois quarts du film, c'est un peu le cas. C'est un peu trop convenu. C'est un peu trop. C'est un peu trop gentil. Un peu trop gentillet même. Comme je disais, avec tous les persos qui sont quand même beaucoup très clichés. Mais sur la fin, ça envoie du lourd. Donc voilà. Donc voilà, c'est à voir pour fans du genre. Hein. On va pas se mentir quand même, à voir pour les fans du genre. Mais voilà. Bon, il y a une sale affaire derrière parce qu'il y a un gars qui, s'appelle Vincent Dicci qui avait pitché visiblement un projet très similaire à Netflix et qui n'avait pas été retenu. Et du coup, Netflix d'un autre côté a produit Sous la scène. Donc, il a attaqué Netflix. Alors, je crois qu'il a attaqué Netflix France, mais il a été débouté. Parce qu'il n'avait pas attaqué Netflix, le siège de Netflix en Europe. Donc, il a été débouté, mais je pense qu'il doit être en train de remonter le truc pour essayer d'attaquer Netflix Europe, pour essayer de faire entendre. Bon, je sais pas s'il a raison ou pas dans ses accusations de plagiat de son truc qui avait pas été retenu, mais en tout cas voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire sur Sous la scène. Donc ouais, j'ai plus les chiffres, mais en tout cas c'est une belle réussite sur Netflix puisque il a fait des bons chiffres en France mais aussi à l'étranger apparemment, donc puisque comme je le disais, c'est le film français le plus vu sur Netflix dans le monde. Voilà. Voilà pour Sous la scène. Très con, mais pour amateurs du genre.
Bon
ça
timing,
passe.
Hein, juste avant les Olympiques.
Ouais, par contre, ça, c'était très malin. Ça marchait
surtout,
bien.
Surtout que la scène était partout dans les news. Quoi.
On en parlait beaucoup, oui, en plus, c'est vrai. Non, c'était malin, c'était cool.
Ok, j'enchaîne sur Handling the Undead,
ouais.
Un film d'horreur norvégien, un film de zombies norvégien, adapté d'un roman de John Lindqvist qui a déjà eu un de ses romans adaptés, c'était Let the Right One In, qui avait été remake en Let Me In, de Matt Reeves, justement. C'était Matt Reeves.
Oui, c'est vrai, c'était Matt Reeves. Ouais.
Bon, c'est un film de zombies, mais c'est pas un film de zombies classique. C'est pas des zombies classiques. On suit trois familles qui sont à différents stages, à différentes étapes de l'acceptation de la perte d'un membre de leur famille. Un qui vient juste de mourir, un où il vient d'avoir l'enterrement, et un où et une famille où ça fait déjà quelque temps. Et il se trouve que chacun le membre de la famille qui est mort revient à la vie. Et c'est pas ils sont pas en mode je veux manger ton cerveau instantanément, tu vois. Ils sont même très passifs, tu vois. Ils sont à peine en vie, quoi, tu vois. Ils respirent pas, mais les yeux sont ouverts, mais ils bougent quasiment pas, etc.
D'accord.
Et en fait, c'est plus une introspection sur comment tu gères la mort d'un membre de quelqu'un de proche de toi, on va dire. Comment tu fais face à ça, quoi, tu vois, vu à différentes étapes. Forcément, ça reste un film d'horreur, donc c'est quand même des zombies, mais okay. c'est très posé, c'est beaucoup plus dans le style de c'était quoi le premier de Romero, Night of the Living Dead.
C'est Night, ouais. Ok.
C'est beaucoup plus dans, tu vois, ce style-là très très posé, très très lent. Mais avec des petits indices tout le long du film de comment ça va évoluer, des plans super bien faits, des choix, c'est fort anxiogène parce que la musique renforce le côté où tu sais que ça va pas, tu vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sens que ça va partir en couille, mais tu sais pas trop quand et tu sais pas trop comment, parce que c'est pas super clair de comment ça va être géré. Et ça marche très bien. C'est pas pour tout le monde, tu vois, faut accepter que c'est un film avec moins de dialogue, avec un rythme beaucoup plus posé qu'un film américain. Mais c'est une bonne manière de visiter le genre, je trouve. Donc, si vous aimez bien les films de zombies, ça vaut la peine de voir un truc un peu différent.
D'accord. Handling the Undead. Pas de date de sortie en France.
Tout petit film. Je crois que c'était 200 000 de box-office.
Ah oui. Ah oui, d'accord.
Mais bon, si on veut compter... Tout à l'heure, j'ai fait le calcul que Atlas, c'était ça le film de Diallo.
Ouais.
C'est 5 millions par pourcent sur Rotten Tomatoes.
5 millions par pourcent, c'est quoi ce calcul? Ok.
Ben, il a fallu dépenser 5 millions pour avoir chaque pourcent de rating sur Rotten Tomatoes.
Ok.
Et là, parce qu'il a 19%. Et là, Handling the Undead, il a 75%, et je suis sûr qu'il a même pas coûté 1 million, tu vois.
Ah oui, d'accord. C'est vraiment
super rentable.
Minuscule, oui, ok.
Okay, à mon avis, il a coûté 100 000 dollars, tu vois, un truc juste. Bon, peut-être que l'achat des droits coûte une partie, vu qu'il est quand même... Let the Right One In, je pense que c'est quand même un film assez... J'ai jamais vu l'original.
Moi, j'ai vu que l'original.
C'est assez populaire, donc j'imagine que c'est pas rien.
Les droits ont dû coûter un peu, ouais. Ok.
Soit. Quand ça sort, ou si vous le trouvez, ça vaut la peine. Si vous aimez bien ce genre de film.
Ok. Handling the Undead. Pour amateurs de films un peu différents, qui traitent un sujet commun, mais différemment. Cool. Ok. Bon, je passe à Bad Boys numéro 4, Bad Boys Ride or Die. Les Bad Boys sont toujours là. Ils sont donc le film est réalisé par les mêmes qui avaient réalisé le troisième, c'est-à-dire les deux Belges Adil El Arbi et Bilal Farah, qui sont connus sous les noms de Adil et Bilal. Donc ils s'étaient, je pense justement, fait connaître à l'international, en tout cas avec Bad Boys for Life en 2020, que j'avais pas trouvé très bon.
Qui était mauvais en grosse partie, je trouve, à cause de Martin Lawrence.
À cause de Martin Lawrence, qui était assez pathétique dans le film, ouais, c'est clair. Là, c'est un peu mieux du côté de Martin Lawrence, mais enfin, il reste quand même globalement assez pathétique.
Il reste pathétique, mais il ne gâche pas le film, je trouve.
Ouais, c'est ça. Il arrivait pas à suivre dans le précédent, vraiment pas. Il était pas du tout au niveau de Will Smith, c'était catastrophique. Là, ça marche mieux. Ça marche mieux.
C'est divertissant.
Ouais, mais vraiment. C'est ce que je me suis dit aussi, en fait. Ça passe, c'est divertissant.
J'ai littéralement aucun souvenir. Je ne saurais plus te dire c'était quoi le plot.
Moi, je me souviens, j'ai un vague souvenir qu'il y a le commissaire, qui retrouve une vidéo du commissaire qui est mort dans le troisième, mais qui, je sais pas quoi, il y a une enquête sur lui et eux ils disent
oui,
non.
Et la fin est super violent avec, oui, je me rappelle maintenant, de scène maintenant.
Donc c'était le capitaine Howard qui était interprété par Joe Pantoliano, donc qui revient, mais de façon posthume dans l'univers du film, puisque donc il est mort dans le troisième, mais là il retrouve une vidéo de lui et voilà. Et c'est ça qui va démarrer tout le truc, où ils vont essayer de nettoyer sa mémoire et du coup ils vont se retrouver mêlés à une histoire de dingue dont je n'ai aucun souvenir. Vraiment. Mais effectivement, le film est plus efficace que le troisième. Ça imite mieux le style de réalisation de Michael Bay, des deux premiers films. Les acteurs ont vraiment l'air de s'éclater, pour le coup.
Et il arrive, on dirait qu'il s'est un peu entraîné. Enfin, il est capable d'être dans le film, tu vois. C'est le point faible du film, mais il est capable d'être dans le film.
Martin Lawrence, ouais, c'est clair. Parce que vraiment dans le troisième film, il faisait limite de la peine, en fait.
Ouais, c'était triste. C'était comme Bruce Willis au pire moment, etc., quoi.
Ouais,
tu sens que ces gens-là ne devraient pas être là, quoi.
Ils devraient juste pas être là, ouais, c'est vraiment ça.
Là, ça passe, tu vois. C'est juste qu'il est un peu mauvais, mais ça passe.
Ouais, ça passe bien, ils s'éclatent tous les deux, ouais, ça marche, quoi, ça marche. Ça reste cliché, ça reste surtout Martin Lawrence qui continue de se comporter comme un adolescent, globalement, alors que, je sais pas, il doit être pas loin d'avoir la cinquantaine. Voilà, ça, il faut un peu laisser de côté la crédibilité du truc, mais ça marche. Le truc, c'est que, bon, ce quatrième film, en fait, à la base, il avait été annoncé assez vite après le succès. En tout cas, le succès au tout début, dès la sortie du troisième film. Mais en 2022, il avait été un peu retardé à cause de l'incident de Will Smith qui avait giflé Chris Rock donc aux Oscars. Et donc ils ont attendu un peu en fait. Ils ont attendu un peu. C'est finalement qu'en 2023 qu'ils ont relancé un peu la machine. Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que il y a plusieurs référence à la baffe dans le film. Alors sachant que Will Smith est producteur, donc il a forcément un input, il a forcément un avis à donner hein, sur le scénario, sur tout ça. Et il y a quand même pas mal de scènes où il se fait gifler dans le film, et ça peut pas être un hasard. Ça peut pas être un hasard. Alors je sais plus, il me semble que j'avais une anecdote quelque part à ce sujet, mais bref, en tout cas voilà, si vous voyez le film ou si vous avez vu le film, regardez bien le nombre de fois où Will Smith se fait gifler. Ça ne peut pas être un hasard. Voilà, c'est tout. Mais sinon, autre truc très 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 inhabituel pour un film comme ça, le film là, il est sorti seulement 3 mois après la fin du tournage. Ça n'arrive jamais.
Ouais, c'est super rapide.
C'est ultra rapide, c'est clair. En général, les tournages se terminent au moins 1 an avant la sortie d'un film, quoi, parce qu'après il y a toute la post-prod, il y a les effets spéciaux, il y a le montage, il y a tout ça. Là, apparemment, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la majorité du film avait déjà été tourné avant, en fait. Ça avait été tourné avant la grève des acteurs et des scénaristes. Et c'est quand ils ont eu le droit de reprendre qu'ils ont dû remettre en place tout le truc et qu'ils ont terminé de filmer les dernières scènes début 2024. Ce qui explique, en fait, pourquoi la majorité de la post-prod était déjà faite aussi. Ouais. Et ça explique comment ils ont pu sortir le film aussi rapidement après la fin du tournage. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai juste le souvenir d'une scène à la fin qui n'a pas de sens, mais là je vais parler un peu de mise en scène pure. C'est à la fois une des scènes les plus notables du film, puisque si vous avez vu soit pendant la promo, soit les making-of, en gros il y a une scène qui est, c'est vraiment tout à la fin, où Will Smith, quand il tient son flingue, on a la caméra qui est sur le flingue, en fait. Et on a presque une vue en mode FPS, comme dans un jeu vidéo. Et en fait, la caméra se tourne soit pour montrer ce que pointe le flingue, soit pour montrer le visage de Will Smith. Là, ils ont dû mettre en place toutes des techniques, une caméra que Will Smith tenait donc effectivement dans ses mains, et que c'est lui qui contrôlait et c'est lui qui pointait. Voilà. Je me souviens plus parce que c'était il y a trop longtemps, mais en fait, je crois que j'ai vu ce film pas longtemps après que j'ai donné des cours d'histoire du cinéma. Je sais plus si j'ai eu l'occasion déjà de parler de ça ici, mais il y a quelques mois, j'ai donné des cours d'histoire du cinéma dans une formation de vidéaste, et j'expliquais notamment, enfin, on s'est un peu attardé aussi sur les techniques de cinéma et de mise en scène, et notamment sur le fait que chaque plan doit avoir un sens, doit avoir une signification. Un plan doit raconter quelque chose. Un plan ne peut pas être gratuit, en fait. Normalement, un plan, tu fais pas un plan classe juste pour dire il est classe. Il doit être intégré à la narration. Et en fait, moi, ces plans-là, à la fin, avec Will Smith en vue FPS, pour moi, n'avaient aucun sens, en fait. Ça ne racontait rien. C'est juste, c'est du show-off complet, mais ça n'a aucun sens dans la narration du film. C'est totalement gratuit, ça sort de nulle part. D'un coup, on a une vue flingue de jeu vidéo. Mmh. Et pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Alors que dans John Wick 4, je crois que c'était l'année dernière, on avait un plan vu du dessus, on avait toute une scène qui était vue du dessus avec un plan très jeu vidéo aussi. Ouais. Mais là, ça avait du sens, c'était génial, ça apportait une dimension au truc, c'était réfléchi, c'était en termes de mise en scène, ça permettait une immersion du spectateur qui était assez unique parce qu'on pouvait voir venir des choses que le personnage principal lui ne voyait pas, et donc ça changeait notre rapport au film et c'était très intéressant. Mais là, dans Bad Boys 4, ça n'a aucun sens, quoi. Ça sort de nulle part, c'est complètement gratuit. Oui, c'est classe, si on veut, mais c'est pas...
Non, je trouve même pas spécialement, parce que je trouve que c'est assez... Ça dérange un peu quand il change, justement.
Oui, je trouve aussi que c'est vraiment n'importe quoi. C'est... Ouais.
Quand ça il change de langue, ça sort un peu... C'est un peu bizarre. Ouais, non, je trouve pas... C'est gimmicky, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est complètement un gimmick, mais ça n'a pas de sens dans la diégèse du film, dans ce que raconte le film en fait. Voilà. Moi, ça m'a vraiment choqué, ça m'a gêné. Mais en fait, le truc, c'est j'ai discuté du film après avec certaines personnes qui m'ont dit, oh, t'as vu les plans, la fin, ils étaient trop, trop bien. Bon, ok. c'était notamment des étudiants que j'avais eu justement dans ma formation. Donc c'était drôle le décalage parce qu'on n'a pas du tout le même âge. Ils avaient trouvé ça trop cool. Mais j'ai quand même attiré leur attention sur le fait que ouais, ok, ça peut paraître fun, mais en vrai. Ah, c'est trop gratuit en fait. Ça n'a pas. Ce serait génial si ça avait un sens en fait. Là, ça n'en a pas. Donc, pour moi, ça va pas. Voilà pour Bad Boys 4. Ça se laisse voir. Après, ça se laisse vraiment voir. Après, comme vous voyez, le scénario nous a pas laissé non plus une empreinte indélébile. Je suis en train de regarder des images de la bande-annonce. Ah oui, je viens de me rendre compte qu'en fait, à un moment, c'est eux les fugitifs. J'avais aucun souvenir de ça. Bref, je le regarderai pas. Enfin voilà, autant je peux revoir le 1. J'adore le 1 en fait. Par contre, j'ai toujours eu un problème avec le 2. Je trouve que c'est too much le 2. Mais j'aime vraiment le 1. Mais autant le 3, je le reverrai probablement jamais. Et le 4, vite fait, mais voilà, j'ai pas spécialement envie de le revoir non plus, quoi. Ça passe bien sur le moment, c'est fun, c'est varié, il y a plein de bonnes scènes, il s'éclate, c'est drôle aussi, beaucoup d'action, voilà. Voilà pour Bad Boys 4. Je n'ai, je crois, rien d'autre à dire sur le sujet.
Ok. J'enchaîne sur Treasure de Julia von Reis. Mm-hmm. Une dramédie, donc c'est une réalisatrice allemande. Je pense pas qu'on a traité un de ses films avant.
Je crois pas.
Et c'est avec Lena Dunham et Stephen Fry, qui est toujours cool pour le coup, Stephen Fry.
J'aime bien.
Lena Dunham, un peu moins. Et ça parle de. Donc, c'est un père et fille qui sont juifs. Et qui sont américains, mais qui ont été, il a été à Auschwitz, quoi, globalement.
Ah oui, ok.
Et elle est journaliste et elle souhaite comprendre un petit peu son passé. Mm-hmm. Et donc elle prépare un voyage en Pologne pour aller pour retracer là où vivait son père et pour tout ça, quoi. Et lui, forcément, il a toujours le trauma en fait de ça. Et donc, il a pas spécialement envie. Il est assez contre. Et il a pas envie vraiment de retourner là où il était, quoi. Tu vois, là où il a autant de mauvais souvenirs.
Bien sûr.
Donc c'est le sujet du film. Et c'est, tu vois, le pitch est assez classique. C'est un film, c'est une histoire assez classique. Et c'est dommage parce que avec une meilleure réelle et une meilleure alchimie entre Stephen Fry et Lena Dunham, ça aurait marché. Lui, il est vraiment excellent, tu vois. Il joue super, tu sens la sensibilité que c'est un peu un mec, il joue un mec charismatique que tout le monde aime bien, tu vois, il est marrant, il est bon vivant. Okay. Mais tu sens la peine d'être là, et tu sens la peur d'être là, tu vois. Tu ressens tous les trucs dont dont il a jamais eu envie de réfléchir, où il a jamais eu envie de faire face à tout ça. Et c'est compréhensible, c'est traumatique. Ouais. Et c'est probablement le cas d'énormément de gens dans son cas. Bon, il y en a de moins en moins, mais.
Oui.
Et en fait, l'idée d'aller voir où il vivait avant, tu vois, et de voir qu'en fait, des gens, ben, techniquement, ont volé là où il vivait, tu vois.
Oui.
C'est un élément que je trouve qui est assez. Que j'ai rarement pensé. Mais genre, en fait, l'appartement où tu vivais, quand t'as été, quand t'as raflé. Été raflé et qu'on t'a mis dans Auschwitz, enfin, dans un train, etc. Ouais. Bah, en fait, ce truc, il a été donné à des gens, quoi. Et il y a toujours, et ça, bon, apparemment, il y a tout un processus, hein, où tu peux essayer de demander à récupérer, ce qui t'appartenait. Mais, bah, en fait, ces gens-là, ils sont aussi là depuis longtemps, tu vois. Donc, il y a un côté où ils ont aussi peur de ce que tu peux faire, ce que tu peux les éjecter de la maison
d'où
ils vivent depuis 40 ans.
Oui, oui.
Ce qui est aussi un point intéressant. Tous ces points-là, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est juste que c'est une réale vraiment de film, de téléfilm, en fait.
Ah, OK.
C'est très, très mou. La photo est pas belle. Alors que ça aurait pu, tu vois.
Très gris.
C'est très gris et c'est pas.
Ouais.
Et c'est très gris, mais c'est pas genre inventif gris, tu vois. C'est pas.
Ah, ok.
C'est juste. T'as juste l'impression que tu utilises pas du bon équipement, quoi, tu vois.
Ah merde.
Et que tu sais pas trop ce que tu fais. Ça fait vraiment téléfilm européen, tu vois.
Ok. Oh, putain, ouais, ça vend pas du rêve.
Je sais pas ce qu'elle a fait comme film d'ailleurs avant. Peut-être que ça vaut la peine de regarder. Mais... Je sais pas si elle a déjà fait un film américain. Non, c'est probablement le premier. C'est son premier, oui. C'est son premier film américain. Okay. Et le poster d'un de ses autres films qui a un wiki est violent. Tu peux regarder I'm Off Then. C'est intéressant.
Alors, voyons.
Je ne sais pas comment tu décrirais. C'est ça, en 2015. Okay. Je ne sais pas comment tu décrirais ce poster. Mais... Donc, ouais. Et Lena Dunham, je trouve, t'arrives pas à penser que c'est sa fille. Parce qu'elle est tout le temps, elle est tout le temps grumpy, alors que lui, il est ultra, jovial, tu vois.
Ok.
Ils ont pas vraiment de connexion. Enfin, c'est très forcé, quoi, tu vois. Il y a vraiment pas d'alchimie entre lui et elle. Et donc, si tu mélanges ça, plus une réelle vraiment approximative, très amateur, ben, t'as un truc où l'histoire est pas mal, le scénario en soi est pas mal, mais il est pas porté par son réel ou par ses acteurs, par son actrice. Mais voilà, sujet intéressant, juste, ça aurait mérité un peu plus de travail. Ouais. Mais sinon, ouais, sujet, tous les trucs marrants, c'est en fait, c'est quand Stephen Fry est laissé en roue libre presque et qu'il essaye de contrôler le voyage, tu vois, en essayant de lui dire non, mais pourquoi est-ce qu'on irait là et tout ça. Et en fait, il veut éviter tous les trucs qui lui font mal, tu vois. Mais tu le ressens, tu le vois derrière ses yeux, tu vois, qu'il a mal, même s'il fait le fanfaron et qu'il essaye de blaguer. Et elle, ben, elle le voit pas, tu vois. Elle est oblivious à tout ça et c'est presque un peu, elle manque presque de respect, je trouve, par rapport à ce qui se passe.
Ok.
Donc, voilà. T'as vu le poster?
Ouais, très, très étrange, en fait. On dirait un truc, ultra cheap, ultra amateur, c'est très bizarre. Ouais. On dirait pas un film pro, quoi, en fait. Ouais. Très bizarre. C'est un mec avec une pelle devant une cabane, mais vraiment, je sais pas. C'est très improbable, ouais.
Bon, la directeur photo a quasiment fait aucun film, en fait.
Ok.
Pas méga choquant.
Ok.
Non, c'est vraiment juste très, très téléfilm. Bah, téléfilm.
D'accord. Ah, putain, ok. Voilà pour Treasure. Alors vous pourrez bientôt le voir en salle en France, mais enfin bientôt, mais il faudra quand même attendre 2025. Il sortira le 8 janvier 2025 sous le titre Voyage avec mon père. Très original. Non, je sais pas, quand tu me parles de ce truc, je me dis ok, je sais exactement de quoi il s'agit. En fait, ils s'entendent pas très bien, mais ils vont un peu se découvrir l'un l'autre. Et elle va découvrir des choses sur son père, puis ouais, du coup elle va comprendre des choses sur elle. Enfin, tu vois, c'est à peu près certain que ça va être des trucs comme ça, quoi. Après, le sujet, par contre, est très intéressant. Mais bon, s'il est traité, ouais, de façon
il est pas maltraité. Ouais, c'est même pas vraiment le traité. C'est pas le scénario qui pose problème, tu vois. Mm. C'est vraiment l'interprétation, je trouve.
Ok.
Mais ouais.
Ok. Eh bien, c'est à moi. C'est à moi, j'enchaîne avec un film vu au cinéma. Ah, ça y est, on revient en salle. De mon côté, avec Les Guetteurs, The Watchers. Il y a plein de films qui s'appellent The Watchers, j'ai l'impression. Hein, ou juste Watchers, enfin bref. Bon. À mon avis, très mauvais choix de titre. Pour le coup, le titre français, au moins, est un peu différent, Les Guetteurs. Alors, Les Guetteurs, c'est un film... Alors déjà, je dirais pas d'horreur. C'est plus un film... Alors, moi, je vois une vraie différence entre un film d'horreur et un film d'épouvante, mais je pense pas que cette nuance soit très claire pour tout le monde. Sachant que j'imagine que c'est quand même des définitions un peu perso, mais un film d'épouvante dans le sens où il y a du malaise, tu vois, mais on va pas avoir forcément des choses très gore ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Ici, alors, on va peut-être d'abord parler de la réalisatrice scénariste qui s'appelle Ishana Knight Shyamalan. Oui, vous avez bien entendu, Ishana Knight Shyamalan, évidemment, c'est la fille de M. Knight Shyamalan. Papa qui produit, évidemment, le film. Maintenant, il s'agit quand même de l'adaptation d'un roman. Qui est paru en 2021, qui était écrit par A.M. Shine. Mais donc c'est la fille Shyamalan qui donc en a à la fois écrit le scénario, l'adaptation en tout cas pour le ciné, et qui réalise le film. Alors c'est l'histoire de Mina, une jeune femme, une jeune américaine qui habite en Irlande, parce que le film se déroule intégralement en Irlande, et se base d'ailleurs sur le folklore irlandais, et je trouvais que la promesse était très intéressante. En gros, elle doit livrer une perruche, je crois, un truc comme ça. Donc elle doit prendre sa voiture, et parce qu'elle travaille dans une animalerie, et donc elle doit prendre sa perruche avec la petite cage et puis mettre ça dans sa voiture, puis traverser une grande forêt pour aller livrer ça, je crois, à Belfast. Sauf qu'elle n'arrivera jamais à Belfast. Elle va en fait se perdre dans la forêt, une forêt qui semble habitée par des choses surnaturelles qui lui veulent pas du bien, et elle va rapidement trouver d'autres survivants comme elle en fait, qui sont perdus et qui se réfugient la nuit dans une petite maisonnette, et en fait ils sont obligés la nuit de se mettre en rang. Pour qu'on les observe en fait, pour que des créatures visiblement les observent par une vitre sans teint, et ils ne doivent pas bouger, ils ne doivent rien faire. Par contre, pendant le jour, là, ils peuvent aller explorer la forêt, mais ils peuvent jamais sortir de la forêt parce qu'il semble y avoir comme un pouvoir qui les maintient dans la forêt et qui fait qu'ils se perdent tout le temps et qu'ils peuvent jamais en sortir, quoi. C'est le premier film de Ishana Knight Shyamalan. C'est Dakota Fanning qui joue le rôle titre. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Dakota Fanning. Elle a eu quand même son heure de gloire à Hollywood quand elle était petite, puisque elle était dans Man on Fire, c'était elle la gamine. Dans La Guerre des mondes de Spielberg, c'était elle la gamine aussi. Bon, ça c'est les plus connus, mais voilà. Il y a eu une époque où on voyait beaucoup sa petite bouille de gamine, et puis elle a un peu disparu. Elle était dans The Equalizer 3, ouais, mais je l'avais pas vu, moi, le 3. Bref, et puis elle avait fait une petite apparition dans Il était une fois à Hollywood de de Tarantino, mais bon, je m'en souvenais même pas, pour être franc. Bon, voilà. Maintenant, elle a 30 ans, en tout cas, Dakota Fanning. Et moi, je l'aime plutôt bien. Je trouve que c'est une bonne actrice. Et là, dans le film, c'est une bonne actrice. Le souci n'est pas là. Car oui, souci, il y a. En fait, la fille Shia Malan, elle sait filmer de très belles images. Ça, il n'y a pas photo,
ouais, ça a l'air
franchement.
Vraiment beau, ça,
ouais, c'est très beau. C'est vraiment très très beau. Par contre, le scénar, ça va pas du tout en fait. C'est pas clair. On a beaucoup de mal à suivre les tenants, les aboutissants, les rebondissements aussi d'ailleurs, parce que je sais pas si c'est pour essayer d'honorer une tradition familiale ou je ne sais quoi, mais il y a une espèce de twist et du coup, mais qui marche pas en fait, qui marche pas du tout parce qu'on est vraiment largué, c'est mal raconté, tu vois, c'est pas que c'est volontairement nébuleux pour nous perdre et que c'est agréable de se laisser perdre dans le film. Là, on a l'impression que ça essaie de nous raconter quelque chose, mais que ça se plante et que ça nous le raconte très mal. Et en plus, il y a des clichés énormes. Il y a des trucs qui sortent de nulle part. Et quand tu réfléchis deux secondes, tu dis mais putain, mais on aurait vraiment pu éviter ces clichés. Alors après, c'était peut-être dans le bouquin, je sais pas. Mais il y a des façons d'amener les choses. Et là, ça marche pas en fait. Ça prend pas. Et du coup, le film, même s'il est beau et que les images sont magnifiques, c'est pénible à regarder parce qu'on se sent largué, par l'histoire. On sait pas si c'est nous qui sommes trop cons pour comprendre ou si c'est mal raconté. Et du coup, c'est chiant, quoi. Et du coup, tout le final qui devrait être le point d'orgue du film ne fonctionne pas du tout. Voilà. Donc visuellement, magnifique, mais le reste, catastrophique en fait. En termes de narration, ça va pas du tout. Donc pour moi, premier essai raté pour Ishana Knight Shyamalan. Voilà. En plus, la bande annonce dévoile beaucoup trop de choses. Heureusement que je l'avais pas vu moi. Mais même en l'ayant pas vu, ça marche pas. Ouais, voilà. Je sais pas comment dire autrement, ça marche pas. Et c'est frustrant parce que t'as envie, quoi. C'est un peu différent, c'est du folklore irlandais, ça change un peu, c'est du folklore qu'on connaît pas forcément bien, donc il y avait un truc intéressant à construire. Mais non, en fait. Non. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Donc voilà. Pour moi, essai raté. De la part d'Ishana Knight Shyamalan. J'étais persuadé que tu l'aurais vu.
Je crois que
bon, c'est pas une critique,
j'ai, hein. Non, mais en fait, j'ai hésité. Ouais, j'ai pas eu le temps. Parce que je crois que j'ai pas eu le temps la semaine où c'est sorti. Et puis après, ça a enchaîné sur les trucs.
Ouais, t'as plus réussi à rattraper, ouais. Ok, bon, je sais pas, moi je suis curieux, dites-moi si vous avez vu ce film, dites-moi si ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression que le consensus était à peu près similaire à mon avis, c'est que c'est très beau, mais c'est très mal raconté, quoi. C'est vraiment, ça prend pas, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Les Guetteurs d'Ishana Knight Shyamalan, c'était sorti au cinéma le 12 juin. Ce qui est pratique, c'est que vu le temps qu'on a mis pour sortir cet épisode, c'est qu'il y a plein de films qui vont très vite être dispo en VOD s'ils ne le sont pas déjà. Donc ça c'est cool. Allez, à toi, Tuesday, qu'est-ce que ça peut bien être?
C'est compliqué, tiens, d'ailleurs, comme sujet.
Ah oui?
Ça me fait un peu penser à le film de George Miller l'année dernière, non, il y a deux ans peut-être.
Oui.
100 Nights ou quelque chose, 100 Years,
3000 ans à t'attendre.
Ah
oui, 3000 ans à t'attendre, c'était ça.
Ouais.
Ok.
Parce qu'il y a un petit côté un peu fantasy.
Okay.
Le sujet est assez triste, donc on suit une mère et une fille. Et la fille, interprétée par Lola Pettigrew, qui s'appelle Tuesday, est malade, mais d'une maladie terminale, quoi. Elle est au bord de mourir.
Ok.
Sa mère, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, n'arrive pas vraiment à accepter ça. Et en fait, sa mort arrive sous forme d'un perroquet. Et on voit le perroquet au tout début du film arriver au moment où les gens meurent, quoi, tu vois.
Okay.
Et il est tout noir et il est tout sale. Enfin, il est vraiment... Comme t'imagines la mort, quoi, tu vois. Si t'imagines la mort en forme de perroquet, ben, il est comme ça.
Et okay.
Elle le voit arriver et elle se met à discuter avec lui et à essayer de le convaincre de ne pas la tuer. Donc Tuesday. Et elle le lave et ils forment, je sais pas, une amitié.
Ok.
Mais en fait, sa mère se rend. En fait, lui, c'est juste, tu vois, il accepte de lui parler, mais son plan est toujours le même, quoi. Il doit en fait faire ça parce que c'est comme ça que le monde fonctionne, quoi, tu vois.
D'accord. Donc on accepte complètement que c'est un perroquet qui apporte la mort et qui discute avec le perroquet.
Ouais.
Ok.
Accepte ça.
Ok, ok.
Mais ça marche bien. Ça paraît réaliste, quoi, tu vois.
D'accord.
Tu vois l'idée que la mort arrive et que il te touche et que c'est ça qui fait que tu finis.
Ouais.
Et que tu le vois pas. C'est ça, mais c'est retranscrit à l'écran avec un perroquet.
Ok, ok, ouais, ok, je vois.
Et forcément, quand le perso de Julia Louis-Dreyfus l'apprend, elle n'est pas du tout d'accord, vu qu'elle est déjà incapable d'accepter la mortalité de sa fille.
Bien sûr.
Ce qui doit être super, super compliqué, hein, je ne dis pas le contraire. Et bon, il va se passer quelques trucs qui vont faire que c'est assez intéressant. Mais c'est globalement un film sur l'acceptation de la mortalité. J'ai eu plusieurs fois ce sujet dans cet épisode. Mais oui, l'acceptation de la mortalité, comment tu gères ce genre de griffe, comment on dit griffe en français ?
Le deuil.
Ouais. Comment tu gères ce genre de deuil, comment tu acceptes qu'est-ce qu'il y a après, etc. Ça marche bien parce que la réal est vachement intéressante pour le coup, au contraire du film d'avant. Et c'est le premier film de la réalisatrice qui s'appelle Dana Cusick. Et ça marche aussi super bien parce que l'alchimie pour le coup entre Tuesday et Zora, donc Lola et Julia Louis-Dreyfus, marche vraiment super bien. Et la voix de la mort est aussi super intéressante. Et l'alchimie entre le perroquet et Tuesday est aussi bien. Et Julia Louis-Dreyfus, elle est toujours excellente. Il y a très peu de rôles où elle n'est pas...
Ça, j'en doute pas, oui.
où elle n'est pas excellente. Et là, c'est encore une performance assez incroyable. Parce que c'est pas une performance facile, tu vois. Elle doit passer entre la rage, la tristesse, d'être complètement perdue dans sa vie parce qu'elle n'arrive pas à gérer... l'idée que sa fille va mourir, mais d'essayer d'être forte devant sa fille, de devoir gérer des problèmes typiquement américains, mais de comment payer les frais médicaux. Donc c'est aussi un sujet du film, où elle doit vendre des trucs, tu vois, de plus en plus pour essayer de survivre. Mais ce qui renforce le côté où la dualité, où tu vois, elle essaye d'être forte devant sa fille, tout en sachant que ça va pas aller, quoi, tu vois, c'est pas, y a pas de possibilité. Et en même temps, d'être complètement perdu, d'être complètement perdu, mais de devoir ne pas le montrer, tu vois. Et elle joue ça super bien. Donc, ouais. Très, très joli film. Assez triste, mais très beau.
Ouais, ça a l'air.
Il y a des moments marrants aussi. Hein. Il y a des moments où elle utilise ses talents comiques.
Ah ok, excellent. Excellent.
Je sais pas quand ça sort, mais...
Je regarde. Tuesday... Ah, ça sort dans pas longtemps. Tuesday... Par contre, je pense que ça sortira pas partout. Parce que ça a l'air d'être un petit film. Mais ça sort le 14 octobre 2024. Donc voilà. Ça m'intéresse. J'aime bien quand des sujets, même difficiles, sont traités par le biais du fantastique, mais du fantastique avec un fond, tu vois, qui permet justement d'aborder les sujets. Donc, ça m'a l'air pas mal. Tuesday. Ok. Ok. 14 octobre à découvrir là dans pas longtemps.
Tu verras, il y a des moments assez intéressants.
Mmh.
Que j'ai pas envie de
s'imaginer. Ouais, ouais. Mais bah, j'espère pouvoir le voir, parce que ça, ça fait partie des films où je suis jamais trop sûr qu'ils vont sortir chez moi. Mais ok, j'espère. Ça marche, c'était Tuesday. Alors moi, je vais parler d'un petit film français que j'ai vu au cinéma, qui s'appelle Survivre, qui est un film, bah, c'est un survival, hein, c'est dans le titre, hein, littéralement, c'est un film de survie. Alors, je vais annoncer la couleur tout de suite pour gagner du temps. C'est pas très bon, mais j'ai bien aimé.
Alors, ça a traité les films.
Ouais. Disons, ouais, je sais pas. En fait, je sais pas trop si ça méritait de sortir au cinéma. Difficile à dire.
C'est un film mais... Netflix, c'est ça que tu veux dire? En fait, franchement, ça a l'air d'un film Netflix.
Oui. Non, mais c'est pas, voilà. On voit que c'est pas une grosse production. Pour un film catastrophe slash survival. Mais j'ai bien aimé pour plusieurs raisons. Première raison, je n'avais pas vu la bande-annonce. Je ne savais rien, en fait. J'avais juste vu vite fait l'affiche, et encore sans trop la regarder, sans trop faire attention. Tout ce que je savais, c'est que c'était plus ou moins de la science-fiction, plus ou moins de la survie, de la science-fiction au sens très large, hein, parce que c'est vraiment, c'est parce que c'est un film post-apo, quoi, c'est tout. Mais voilà, film post-apo français, ça attire quand même mon attention, et en plus, dans le rôle principal, Emily Deakin. Je crois, je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais j'adore Emily Deakin, alors que j'ai absolument pas vu son film le plus, probablement le plus incontournable. Comment ça s'appelle, Rosetta ou un truc comme ça, non?
Ouais.
Voilà. Que j'ai pas vu. Non, moi, Emily Deakin, c'est le Pacte des Loups. Okay. Elle est incroyable dans le Pacte des Loups, et je la trouve toujours aussi géniale et toujours aussi jolie, soit dit en passant. Voilà, ça a peut-être joué dans mon appréciation du film, probablement, parce que quand je vois les critiques assassines qui s'est mangé, c'est assez justifié, parce que c'est pas très bon. Alors, je suis très embêté pour pitcher le film, parce que quand je vois la bande-annonce, je me rends compte qu'elle spoil beaucoup trop de choses, quasiment tout, tous les bons trucs. Et je suis embêté parce que je peux pas vraiment le pitcher sans spoiler un minimum non plus. Moi, vraiment, j'ai kiffé parce que je ne savais rien de rien de rien. En fait, ça commence, c'est une famille qui est, il y a le père, la mère et deux enfants. Et ils sont au large, en fait, ils sont sur leur petit bateau, c'est les vacances, et voilà, ils passent une soirée ensemble sur le bateau, je crois que c'est l'anniversaire d'un des deux enfants, un truc comme ça. Alors, il y a un truc qui est très étrange, par contre, au niveau du doublage, parce que c'est... Emily Deakin, elle parle français, par contre, celui qui joue le père, je crois bien qu'il est... c'est un acteur anglophone, du coup, c'est très étrange, parce que tout est doublé en français, et du coup, il y a des moments où, à l'écran, ils parlent français, mais on voit bien à leurs lèvres que quand ils ont tourné le film, ils parlaient pas français. Mmh. Donc, c'est très bizarre, sachant qu'ils sont français, tu vois. Mmh. Mais je sais plus, je crois que j'avais lu un truc là-dessus, je sais plus trop, mais je crois que c'était pour pouvoir vendre le film à l'international, en fait, qu'il a été tourné, toutes les scènes où ils devaient parler en anglais, ils ont tourné en anglais, et pour le marché français, ils les ont redoublés en français. En gros, c'était... Ah oui, alors ceux qui sont à l'origine du film, c'est le réalisateur Frédéric Jardin, et qui a rencontré les producteurs Marc-Étienne Schwartz et Marco Stanimirovic. Et eux, ils étaient connus parce qu'ils avaient déjà produit un film assez violent qui s'appelait Revenge, qui était un film de vengeance. En fait, ils se font pas chier. Les mecs, film de vengeance, il l'appelle Revenge, film de survie, il l'appelle Survivre. Bref. En gros, ils lui ont proposé un scénario, et le réalisateur Frédéric Jardin a retravaillé le scénario pour justement retravailler les personnages. Alors, ça, je vais dire aussi, Emily Deakin est la seule bonne actrice du film. Clairement, les enfants jouent très mal, le mari joue assez mal aussi, et il y a quelques autres personnages, tout le monde joue mal. Vraiment, c'est assez catastrophique, il y a quelqu'un qui joue bien. Ça, c'est pas un petit truc. Je regarde si j'avais d'autres anecdotes. Non, j'avais pas grand-chose d'autre. Mais en gros, le pitch de départ, c'est qu'ils sont sur ce bateau, Et puis il va y avoir une grosse tempête, une énorme tempête même, mais genre avec des météorites qui tombent aussi dans l'océan. Et ça me fait chier d'être obligé de spoiler ça parce que moi je ne savais pas et ça a été une vraie claque visuelle. Quand il se réveille le lendemain matin, il y a plus d'eau en fait. Il se retrouve donc toute l'eau de la mer s'est retirée ou de l'océan s'est retirée et du coup ils sont au milieu de nulle part, ils peuvent pas bouger évidemment puisque le bateau ne peut plus avancer comme ça. Ils ont pas de vivres qui leur permettront de tenir très longtemps et surtout ils sont en danger parce que c'est un film post-apo. En gros, ils se retrouvent très rapidement dans un univers à la Mad Max. Alors l'un des gros défauts du film, c'est que tout va beaucoup trop vite. Tous les dangers qui vont leur tomber dessus, ça va beaucoup trop vite, ça sort de nulle part. C'est un gros problème. Mais moi, j'ai vraiment kiffé les visuels, en fait. Je m'attendais tellement pas à ça que du coup, je trouve que le bateau, parce qu'évidemment, après, ils ont été tournés ça dans un désert, mais pour moi, ça marche, en fait, dans la diégèse du film, ça fonctionne, de me dire que quand je vois ce bateau posé dans le désert, je peux croire qu'il y avait la mer la veille et que du coup, comment on fait pour survivre, quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait comme ça, à quelques moments du film, des images de pur post-apo qui marche vraiment bien. Visuellement, il y a des plans qui sont hyper classe, qui sont magnifiques. Maintenant, le scénario est très con et la plupart des acteurs jouent très mal. et visuellement, tout n'est pas magnifique non plus. Donc voilà. Mais moi, j'ai vu vraiment ça comme un petit film de série B, voire limite de série Z, un peu bidon, avec un budget qui doit être microscopique pour l'ambition visuelle qu'il a. Et j'ai trouvé ça divertissant. Voilà. Pour moi, c'est bien passé, mais je préfère être honnête. Toutes les critiques de ce film sont catastrophiques. Voilà. Mais moi, je trouve bon. Peut-être qu'au cinéma, ça avait pas vraiment sa place, effectivement. Sur une plateforme, ça se regarde, quoi. Ça se regarde.
Ouais. En fait, ironiquement, c'est ce genre de film que Netflix doit faire.
Oui.
Ils doivent pas faire des trucs Atlas. Hein. C'est complètement débile. Tout le monde
non,
s'en
c'est
fout,
pas leur. Ça. Ouais. C'est clair. C'est vrai. C'est vrai.
Alors que faire quelques petits films comme ça, de genre, tu vois. Mais de genre, vraiment de genre, tu vois.
Films, genre assumés. Ouais.
Pas des films génériques SF, quoi.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Des petites prods un peu originales. Ouais. Parce que c'est sympa, hein. C'est un peu original. Moi, j'ai pas souvent vu des visuels comme ça. Ça marche pas trop mal. Ça va mille fois trop vite. Mais ça marche. À peu près. Voilà, ouais, c'est un peu un cas à part. Voilà, je sais que c'est pas très bon, mais moi j'ai vraiment vraiment bien aimé Survivre parce que les visuels, parce que Emily Deakin. Voilà.
Très bon. L'audience sait que tu aimes les mauvais films, donc ça.
Oui, a priori. Hein. Donc voilà. Ok. Ok, pour Survivre, c'était sorti au cinéma le 19 juin. Vous n'en avez probablement pas entendu parler, mais je tenais à le réhabiliter. Toute proportion gardée, bien sûr. Bon, on reste dans la survie.
Ouais.
Quiet Allez, Place. On reste dans la survie avec A Quiet Place Day One, alias Sans un bruit, jour 1 de Michael Sarnowski. C'est sorti au cinéma le 26 juin dernier. Donc c'est un préquel de A Quiet Place, Sans un bruit en France. Sachant qu'il y avait déjà eu donc deux films écrits et réalisés par John Krasinski, si ma mémoire est bonne. Pour le premier, je suis sûr, pour le deuxième, je sais plus, mais je crois.
Il me semble.
Oui, c'est ça. Oui, c'était bien écrit et réalisé par Krasinski, le deuxième également. Alors, moi, je vais être honnête avec toi, j'adore le premier, je l'ai vu plusieurs fois.
Ouais, le premier, excellent.
Ouais, le 2, par contre, j'en ai aucun souvenir. Il me semble que j'avais pas trop kiffé.
C'était moi. Il y avait quelques bons moments, il y avait quand même. Ouais. Le perso de Cillian Murphy était pas mal.
Je m'en souviens pas.
Il vivait dans la fenderie.
Et ah oui, ça me dit vaguement quelque chose.
Il y avait quand même quelques trucs bien, mais ça en fait, ça aurait dû rester un film. Ça aurait jamais dû être. Ouais. Ça aurait jamais dû être plus qu'un film.
Ouais. Ça a pas le potentiel d'une franchise, je trouve pas quoi.
En fait, le pitch est vite cassé quoi. Parce que. Tu vas pas continuer à être silencieux à chaque fois, donc tu perds ce côté-là. Mmh. Et donc ça marche pas vraiment, je trouve. En fait, je trouve que le premier, c'était un film de survie, et le deuxième, c'est un film d'action. Et ça marche pas pour moi à cause de ça. Bon, c'était pas atroce, hein, je trouve, le deuxième, mais je suis assez d'accord que c'est...
Ça m'a pas marqué.
Tous, on pourrait oublier et juste garder le premier, et il marche super bien en tant que film.
Ouais, ouais, clairement.
Et ici, clairement, bon, alors... Ouais.
Bah, on va... Attends, je vais un tout petit peu parler de la prod. En gros, c'était la Paramount donc qui était plutôt contente du succès notamment du premier film. Donc dès 2020, ils avaient annoncé qu'ils feraient un spin-off. L'idée, c'était que ce soit Jeff Nichols qui aurait dû réaliser ce spin-off. Jeff Nichols, donc, qui a en général, qui fait des choses un peu différentes dont on va parler tout à l'heure, mais Take Shelter, Mud, Midnight Special, c'est des films un petit peu à part et je le vois pas du tout sur une franchise comme ça. Mais bon, bref. De toute façon, ça s'est pas fait. En 2021, Jeff Nichols a quitté le projet pour travailler sur autre chose. Du coup, c'est Michael Sarnowski qui a été annoncé à sa place, et c'est en fait Krasinski, hein, le créateur de la franchise, qui a contacté Sarnowski parce qu'il avait vu son film Pig, le fameux Pig avec Nicolas Cage, qu'on avait bien aimé et qu'on avait abordé dans 24 FPS. Donc voilà, Krasinski aussi a bien aimé Pig, et c'est pour ça qu'il avait contacté Sarnowski pour lui confier un film avec un peu plus de budget. Sarnowski dit qu'il s'est inspiré des Fils de l'Homme pour son film. Pourquoi pas, mais...
Je sais pas où, mais...
Ouais, voilà.
Très loin.
Pourquoi pas. Bon, les deux personnages principaux sont interprétés par Lupita Nyong'o et Joseph Quinn. Eux, ils ont été recrutés en fin 2022. Mais la troisième star du film, c'est le chat. Le chat Frodon. Alors c'est rigolo parce qu'en fait Lupita Nyong'o avait une peur panique des chats. Et elle avait demandé au début du projet qu'il choisisse un autre animal. Et on lui a dit non. Donc elle a dit merde. Mais elle a quand même resté sur le film et elle a fait une thérapie pour surmonter sa peur des chats. Et visiblement, à la fin du tournage, elle a elle-même adopté un chat. Donc ça s'est plutôt bien passé.
Sans rendre compte de la supériorité.
Oui, je dirais pas ça. Alors, ça c'est un autre sujet. Mais restons un peu sur le chat, effectivement, parce que c'est quand même un peu le breakout caractère du film, hein, clairement. C'est quand même. Moi, je me souviens quasiment que de ça. Hein.
Non, c'est vrai qu'il est cool tout le long.
Il est vraiment cool. Mais par contre, il est pas réaliste, hein, ce chat. Je veux dire. Il fait jamais de bruit, il comprend limite quand il y a du danger, il revient toujours. Bon, voilà, c'est un peu le chat idéal, mais un peu trop, tu vois, hein, presque surnaturel.
Après, c'est
tellement...
un thérapicat, hein, peut-être qu'il a été entraîné.
Ouais.
Tu crois que c'est un emotional support cat?
Mais j'en sais rien, moi, c'est juste un chat, quoi, je dirais.
Tu vis pas à San Francisco.
Oui, ça doit être pour ça. C'est vrai en plus. Mais apparemment, ce qui est rigolo, c'est que la Paramount voulait que le chat soit en CGI. C'est Sarnowski qui a dû défendre le truc, qui a dit non, 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 le chat dans mon film ne sera pas en image de synthèse. Ah bon, alors, il y a quelques plans où il est en image de synthèse. Hein.
Et d'ailleurs, tu le vois quelques fois.
Je crois, il me semble que c'était assez visible. Mais non, mais pour la majorité des scènes, non, c'est vraiment un vrai chat. D'ailleurs, deux chats, en vérité. Donc, il a réussi à défendre le truc, il a réussi à imposer que ce soit joué par des vrais chats. Et les vrais chats en question s'appellent Nico et Schnitzel, donc qui jouent le rôle de Frodon. Frodon le chat à l'écran. Et alors, il y a un truc qui est rigolo, dernière anecdote sur le chat, c'est que apparemment il y avait une scène qui était écrite où le chat devait... tu sais, un petit peu se cambrer et puis avoir les poils hérissés sur le dos, qui est une réaction normale, hein, quand les chats se sentent menacés. Sauf que, en fait, les spécialistes, les entraîneurs de chats, je sais pas comment appeler ça, ont dû expliquer à Sarnowski que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas demander au chat de faire, en fait. C'est impossible. fait. On peut leur demander, on peut les dresser pour faire plein de trucs, mais on peut pas les dresser pour qu'ils hérissent les poils et qu'ils prennent cette position. Ça, c'est impossible, apparemment. Donc voilà. Donc du coup, comme Sarnowski ne voulait pas utiliser d'image de synthèse, donc on sait que c'est faux, hein, parce qu'il y a quelques plans où il est en image de synthèse, mais il a préféré retirer les scènes où les chats devaient hérisser les poils plutôt que de les faire en synthèse.
Okay.
Et il ne voulait pas non plus effrayer les chats pour de vrai, ouais. Pour le tournage. Voilà. Bon. Voilà, le film, alors c'est rigolo parce que le film a été tourné donc de février à avril 2023 à Londres, alors que tout se passe à New York. Et ça passe plutôt bien, hein, on a vraiment l'impression d'être à New York, ça marche. Ça marche à peu près. Mmh. En fait, c'est les studios Warner qui ont été utilisés, les studios Warner de Leavesden au Royaume-Uni, qui ont en fait été utilisés pour recréer quatre blocs, comme on dit, de New York. En tout cas, quatre endroits vraiment importants à l'extérieur de New York. J'imagine que les décors ont été complétés en images de synthèse. Hein. Ils n'ont pas construit les gratte-ciels complets, évidemment. Voilà, voilà. Et puis, le budget du film est quand même de 67 millions. Alors, c'est à la fois un petit budget, mais et à la fois pas mal parce que ça reste un petit film, mais en tout cas c'est des budgets que je trouve au moins corrects pour le type de film que c'est pas des budgets complètement déconnants. Voilà, c'est Industrial Light and Magic qui a fait les effets spéciaux du film, comme quoi il y a bien des images de synthèse dedans forcément, hein, puisque c'est le principe aussi de Sans un bruit, hein, puisque je rappelle ce sont des extraterrestres qui attaquent
c'est des vrais extraterrestres,
il les a... oui je pense, puisqu'il voulait pas utiliser de CGI. Voilà, on peut pas faire de bruit en fait, puisque sinon ils nous entendent. En fait, ils sont aveugles, mais par contre ils entendent tout. Voilà. Et là, le film nous raconte littéralement le jour où, ces extraterrestres arrivent. C'est vraiment le day one de cette invasion extraterrestre. Et en plus, ils arrivent à New York, la ville la plus bruyante du monde. Bon, c'est comme ça que ça nous est présenté dans le film. C'est peut-être pas la plus bruyante, mais en tout cas une grande ville qui est forcément très brillante. Et puis on va suivre donc quelques personnages qui vont essayer de survivre une fois qu'ils auront compris que c'est le bruit qui leur attire des ennuis. Voilà, voilà. Et donc ils vont traverser la ville. Je vais pas dire pourquoi, mais justement ça fait partie des défauts pour moi en fait. La motivation qu'ils ont de traverser la ville n'a pas vraiment de sens en fait.
Non.
Moi
j'aime bien. C'est un peu poussé quoi.
Ouais, c'est un peu too much. En fait, j'aime bien le fait que le personnage de Lupita Nyong'o soit malade.
Addict aussi.
Et oui, c'est vrai, il est accro.
Un choix un peu osé hein, d'utiliser le médicament qu'elle prend. Parce qu'en général, les gens essayent de plus trop le dire, quoi.
Ah oui.
Okay. Tu vois le brand name, quoi, tu vois.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc elle prend de l'oxy, mais d'une manière un peu bizarre, parce qu'elle le fait en avec un pansement, on va dire. Donc c'est transdermal en anglais, mais je sais pas comment on dit.
Je saurais pas. Ouais, je connais pas le terme français.
À travers la peau, quoi, plutôt que de manière orale. J'étais surpris de voir le nom. Parce que c'est un peu tabou.
Il est très connoté. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas, l'oxycodone est un médicament qui est au cœur d'un scandale aux États-Unis, le fameux scandale des opiacés. En deux mots, en fait, en gros, ce sont des antidouleurs très puissants qui ont été prescrits n'importe comment. Parce que les laboratoires qui les fabriquaient poussaient vraiment les médecins à les prescrire à tour de bras, sauf que c'est des trucs hyper addictifs, tu deviens accro très rapidement et les chances que tu fasses des overdoses sont très élevées et il y a des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de personnes qui sont mortes d'overdoses de ces saloperies. Ouais, c'est vraiment un scandale gigantesque aux États-Unis depuis pas mal d'années, le scandale des opiacés et tout ça parce que les labos ont poussé vraiment pour pousser à la consommation, en fait. C'est ça qui est fou. Alors que on parle de médicaments et de médicaments puissants.
Ça fait plus de 20 ans, en fait. Hein.
Ça fait déjà 20 ans, putain, c'est n'importe quoi.
C'est juste
quoi.
Que pour eux, je pense que ça a été particulièrement populaire depuis 10 ans. Mais oui, là, oui. Quand ça a commencé, quand je me rappelle plus c'est quoi la boîte qui faisait de l'oxy.
Enfin, je sais plus.
La firme pharma, quoi. Les a commencé à les pousser il y a plus de 20 ans.
Ah ouais, quand même. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, c'est un truc de fou. C'est une histoire de fou et qui est pas tout à fait terminée, hein, parce que je crois que encore aujourd'hui, la cause de mortalité numéro 1 chez les jeunes américains, c'est l'overdose de ces saloperies-là, quoi.
Ça dépend des villes, mais ouais.
Ouais. Mais c'est fou quand on y pense, en fait. La cause de mortalité numéro 1 chez les jeunes, c'est l'overdose d'oxycodone ou des opiacés du même genre. C'est hallucinant. Largement devant les accidents de la route ou je ne sais quoi d'autre. Enfin bref, c'est complètement taré, quoi. Et c'est le résultat d'une vraie politique marketing de la part des labos, quoi.
C'était déjà genre 20% il y a 2 ans, tu vois. Donc ça doit être encore.
Ah ouais. C'est un truc de dingue. Bon, ici, il est pas vraiment question de ça dans le film, c'est juste que le personnage
ouais, non,
de
c'est
Sam.
C'est juste que le fait qu'elle l'utilise est bizarre à voilà. l'écran quoi, oui. d'un blockbuster.
Elle en prend dans un petit blockbuster, mais après, elle est en phase terminale, donc elle en a un peu plus rien à foutre. Donc c'est aussi ça qui fait que son personnage est un peu particulier.
Je trouve que le choix de la réal et du costume de mettre ça plutôt que de mettre autre chose, quoi, tu vois.
Oui. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Le nom du médicament, c'est vrai que c'est un peu surprenant de le voir. Mais après, ça parle parce que aux États-Unis, surtout, tout le monde sait ce que c'est, quoi. Mmh. Ici, peut-être moins, mais ouais. Ok. Mais ouais, son personnage à elle, il est intéressant. Je trouve qu'elle le joue plutôt bien. Mais par contre, ses motivations n'ont pas beaucoup de sens parce qu'en fait, j'imagine que le fait qu'elle est en phase terminale d'un cancer est censé justifier le fait qu'elle fait un peu n'importe quoi. Mmh. Et ça marche moyen.
Ouais. Moi, je sais pas que je la trouve. Elle est pas nulle, mais je la trouve pas méga intéressante. Et je trouve que les persos marchent pas, quoi.
Non, les persos, on a beaucoup de mal à s'identifier, à comprendre ce qu'ils font. Et du coup, c'est vrai que je me suis senti beaucoup plus extérieur au film que le premier Sans un bruit, où là, t'étais à fond avec eux, t'as peur pour eux. Là, j'en avais un peu rien à foutre, ouais. Effectivement.
Lui, il est un peu lourd dès le début. Enfin, ouais. Celui avec qui elle reste tout le long, quoi.
Ouais, ouais.
Et les autres, ils sont là pas là longtemps, donc ça.
Non, les autres. D'ailleurs, on les voit à peine.
Je vois même pas pourquoi, parce qu'ils construisent un peu des arcs sur ces persos-là
oui.
au début.
Oui.
Et en
sur
fait,
les
ça
autres,
sert à
oui.
rien parce que.
Rien du tout.
Ouais. C'est. Non, je trouve que le scénar est quand même beaucoup moins bon.
Oui.
Les acteurs
oui.
sont beaucoup moins bons. Ouais, visuellement, ça passe, mais c'est pas non plus incroyable. Quoi. Tu vois, c'est juste. Ça fait le taf.
C'est ça. Ça se laisse voir sur le coup. C'est agréable. Toutes les scènes avec le chat, ça fait sourire à chaque fois parce que t'es content de le voir. Et voilà. Mais en dehors de ça, j'en ai pas retenu grand chose.
Ouais. Ça passe, mais rien de spécial.
Ok. Ok. Bon, voilà pour Sans un bruit, jour 1 qui était sorti au ciné le 26 juin. A priori, le moins bon des 3 de la saga.
C'est moi?
Ouais, c'est toi avec Janet Planet. Ouais. Je sais pas du tout ce que c'est.
C'est pas grave. Tu le verras jamais.
Ok.
Un film de Amy Baker. Dont on n'a jamais. C'est son premier film, donc elle faisait du théâtre.
Okay.
Et c'est un. C'est vendu comme un coming of age, mais je trouve pas vraiment que c'est un coming of age.
D'accord.
On est censé suivre Lacey, qui a 11 ans. Qui est la fille d'une hippie qui fait de l'appu quand on met des aiguilles dans la peau.
Ah, l'acupuncture.
L'acupuncture, merci. Donc qui est la fille d'une acupuncturiste, quelqu'un qui fait de l'acupuncture.
Oui, voilà. Ce que je saurais pas.
Hippie. Elle est très
acupuncteuse, je sais pas.
Soit. Donc elle a un petit cabinet dans la campagne, elle est très hippie. Ouais. Et okay. Ouais, donc c'est vraiment vendu comme un coming of age. Et au début, elle va à un camp, donc la fille Lucy, Et puis elle appelle sa mère un peu genre « Viens me chercher parce que sinon je vais me suicider. » Elle fait une petite crise. Et ouais, c'est un peu bizarre parce que le film arrête pas de changer entre le point de vue de... Enfin, c'est souvent le point de vue de Lucie, mais ça parle trop de sa mère et des amis de sa mère, tu vois.
Ah, ok.
Et ça marche pas vraiment comme coming of age parce que tu restes pas assez... avec Lucie, avec Lacey,
ouais,
pardon. Lucie,
avec la petite, avec ok. Lacey. Ah bah oui, du coup, c'est bizarre.
Ouais. Et donc, t'es un peu en mix de qu'est-ce que tu veux raconter, et ils commitent pas sur un des deux, tu vois. Ils commitent pas sur, ouais, leur relation familiale ou sur le coming of age. Et donc,
ok, bon, ils arrivent pas à choisir le sujet principal du film, ouais, en fait, en gros. Ouais. Ok. Ouais, c'est chiant.
Les actrices sont bien, ça fonctionne bien, mais c'est les actrices sont bien, mais par contre leur perso m'énerve un peu. Bon, ça c'est dans l'écriture du film, hein, donc je ne critique pas l'actrice pour le coup. Mais ouais, le perso m'énerve un peu. Juste, je sais pas. En fait, c'est le perso fait plein, la mère en particulier fait plein de conneries tout le temps, et tu te dis grandis un peu, quoi, tu vois. En fait, c'est presque le coming of age de sa mère, tellement elle est immature sur plein de points.
D'accord.
Et ouais, ça m'a un peu saoulé parce que ça raconte rien, ça tu passes de perso en perso, et tu suis un peu le point de vue de la fille, mais parfois autre chose. Puis des gens disparaissent, des gens reviennent. C'est ce qui est pas complètement irréaliste, mais ça marche pas dans le film, quoi.
Ouais,
assez, je me suis fort ennuyé, j'ai trouvé ça très
bien. Ouais,
donc je me rappelle plus de tout à cause de ça, mais...
ouais, ok, Janet Planet, ça sort, non, c'est sorti, c'est déjà disponible en France en VOD, c'est sorti le 8 septembre dernier. J'en ai absolument pas entendu parler.
Pas étonnant.
Ok. Ok, ok. Bon, ben voilà pour Janet Planet. Loin d'être incontournable.
Ouais.
Très bien. Bon, je vais passer à ce qui aurait peut-être pu être un gros dossier, mais je vais pas faire... je pense pas que je vais faire trop trop long non plus. Je vais parler du Comte de Monte Cristo. Alors, je peux tout de suite dire, j'ai bien aimé le film. C'est pas pour ça que je vais pas faire un gros dossier dessus. C'est que j'ai bien aimé, mais ça reste pas les trucs qui me passionnent le plus. Le Comte de Monte Cristo, à l'origine, c'est un roman d'Alexandre Dumas qui a été publié en fait, d'ailleurs, à l'origine pas tout à fait sous la forme d'un roman. À la base, c'était un feuilleton à suivre. Donc, ça a été publié entre août 1844 et janvier 1846. Donc presque un an et demi de publication. Donc voilà, alors il paraît que quand on lit l'intégrale du truc, alors aujourd'hui si on veut lire l'intégrale, c'est 6 volumes qui représentent environ 1889 pages, donc c'est quand même plutôt très long. J'avais commencé la lecture en audio pour préparer la sortie du truc, mais je crois que j'ai lâché l'affaire à peu près 50%, ce qui reste assez énorme.
Ouais, c'est long, hein, c'est quand même là quand même.
C'est incroyablement long. C'est pas mauvais, mais c'est trop long pour moi. Et voilà, plus je vieillis, je crois, et plus j'apprécie le format court. Donc là, c'était vraiment très, 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 très long. Beaucoup trop long pour moi. Mais c'est très sympa, hein, au niveau de l'écriture. C'est vrai que ça reste relativement moderne et très agréable à lire. Très sympa. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme, Edmond Dantès, qui va être accusé à tort de trahison envers la couronne et de sympathie pour Napoléon, et qui va être condamné et enfermé dans une cellule au château d'If, au large de Marseille, et qui va y passer de très très longues années à pas comprendre ce qui lui est arrivé. Et puis en fonction, je vais pas tout raconter si vous connaissez pas l'histoire, mais voilà, bref, par rapport aux rencontres qu'il va faire, en fait il va avoir l'opportunité de s'échapper et de mettre la main sur un trésor qui va lui permettre de se construire un personnage qu'il va appeler le comte de Monte Cristo, et il va revenir dans la vie de ceux qui l'ont trahi pour détruire leur vie et se venger. Et aussi, parce qu'il faut savoir que un peu le cœur de la vengeance, c'est aussi le fait que quand il a été arrêté à tort, il était sur le point de se marier. Il a jamais oublié celle dont il était amoureux, voilà, mais qui a totalement refait sa vie entre temps. Parce qu'on parle vraiment de un paquet d'années. Je dis pas le chiffre exprès si vous connaissez pas l'histoire, parce que c'est intéressant à découvrir à l'écran, de voir les années qui passent et qui passent et qui passent et qui passent, et tu te dis mais putain, mais jamais il va sortir de là, le pauvre, quoi. C'est vraiment aberrant. Donc voilà, c'est ça l'histoire du comte de Monte Cristo. Donc une histoire de vengeance. Il y en a, alors j'ai déjà vu passer des, il y en a qui disent que c'est un peu l'origine de Batman. Alors bon, oui et non. Déjà d'une part, c'est pas vraiment avéré, mais oui, il y a le côté, riche. Le côté voilà, je suis très riche et puis je vais utiliser des déguisements et des masques pour me créer finalement pas juste un personnage mais toute une ribambelle de personnages, et comme j'ai du fric à foison, il y a pas de limite à tout ce que je peux mettre en place pour me venger. Mais et c'est pas juste les tuer hein qui veut, c'est vraiment les faire souffrir et leur faire perdre leur statut social, enfin les détruire complètement en fait, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec lui, sachant que lui il était pas grand-chose, c'était juste un jeune homme qui avait la vie devant lui et qui allait se marier et qui allait devenir capitaine de bateau, quoi. Mais voilà, tout ça lui a été enlevé de façon totalement injuste et un peu gratuite. Donc, il va se venger. Alors, des adaptations du comte de Monte Cristo, il y en a déjà eu des kilotonnes. En fait, la toute première au cinéma, si je parle que du cinéma, parce que il y en a eu quelques-unes à la radio, mais ouais, au cinéma, c'est énorme. Il y en a, il y en a 20, 30, je sais pas combien, si pas plus, peut-être une quarantaine. La toute première date de 1908 aux États-Unis. C'est assez, donc ouais, c'est un récit qui est assez célèbre aux États-Unis parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations américaines du comte de Monte Cristo. La première en France date aussi de 1908, donc finalement les Américains et les Français ont tout de suite rebondi là-dessus dès le tout début de l'histoire du cinéma. Dans les premières années, les États-Unis, ils ont adapté l'histoire en 1910, en 1911, en 1912, en 1913. Enfin, c'est assez impressionnant. Les Français en ont refait une version en 1913 aussi, puis en 1915, 1917, en six parties. Les Américains en ont refait en 1922, les Français en 29, les Américains de nouveau en 34. Enfin, il y en a, voilà quoi, c'est un truc, il y en a énormément, énormément. Pour rentrer dans du cinéma à peu près moderne, on a une adaptation en 1943 en France, puis en 1948 avec Pierre Brasseur dans le rôle d'Edmond Dantès, puis dans les années 50, en 54, il y a eu une adaptation avec Jean Marais dans le rôle d'Edmond Dantès. Il y en a encore une autre adaptation française en 61, une autre en 68, une américaine dont je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà entendu parler, qui s'appelle La Vengeance de Monte Cristo aux États-Unis en 2002 avec Jim Caviezel dans le rôle d'Edmond Dantès. Et donc la dernière en date au cinéma, c'est donc l'adaptation française qui vient de sortir, qui est réalisée par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Alors je vais en parler dans un instant, mais voilà, c'est un peu une partie de l'équipe qui avait déjà œuvré l'année dernière sur Les Trois Mousquetaires. Et je vous passe toutes les adaptations qu'il y a eu au cinéma, parce qu'il y en a eu un paquet aussi, également en film d'animation, en jeux vidéo. Enfin, il y a des références, en tout cas, dans certains jeux vidéo. Il y a des comédies musicales. Il y a plein de choses. Bref, c'est quelque chose de très célèbre. Alors, au niveau donc de cette nouvelle adaptation, qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, le producteur, en fait, c'est Dimitri Rassam, et c'est donc lui qui était déjà le producteur des deux films, Les Trois Trois Mousquetaires qui était sorti l'année dernière. Alors, est-ce que j'ai un peu plus de détails ? Je me souviens plus, mais je vais voir ça tout de suite. En fait, le projet d'adapter le Comte de Monte Cristo avait même été annoncé avant le début du tournage des Trois Mousquetaires. Parce que l'idée, c'était vraiment d'adapter les plus grandes œuvres d'Alexandre Dumas et d'en faire un peu des blockbusters français. Le projet a été confirmé en février 2023 avec Pierre Niney dans le rôle principal. Et ça tombe bien parce que c'est justement lui que les scénaristes voulaient dans le rôle titre, puisque en gros, ils ont écrit vraiment le rôle pour lui. Voilà, parce qu'ils sont très fans de Pierre Niney. Les réalisateurs du Comte de Monte Cristo étaient scénaristes sur les films des Trois Mousquetaires. Donc c'est vraiment la même équipe dans l'ensemble. Donc j'ai dit même producteur, le costumier Thierry Delettre, c'est le même, le décorateur Stéphane Taillasson, c'est le même, le chef op donc directeur photo Nicolas Bolduc, c'est le même, et la monteuse c'est Célia Lafitte Dupont, c'est la même que pour les Trois Mousquetaires. On parle ici d'un budget de 42,9 millions d'euros. Donc c'est un très gros budget pour un film français. C'est le film français le plus cher qui sort en 2024. Bon, de toute façon, il n'y a quand même pas souvent des films qui sortent avec des budgets comme ça en France.
Et souvent, ils sont mauvais. En fait, ça va encore. Oui. C'est encore raisonnable. Tu vois, c'est pas dans le dans le Astérix, quoi.
C'est clair, c'est quoi
le truc de l'année dernière? C'était Astérix, non, l'année dernière?
Qui c'était avait coûté l'année dernière méga ou l'année d'avant? Ouais, Astérix, c'était délirant, mais je me souviens pas du chiffre, mais oui.
72
ouais. Putain, c'est
65 millions d'euros. 72 en dollars.
Ah oui, d'accord, 65. Bah, c'est quand même plus de 20 millions d'euros de plus que le Comte de Monte Cristo, alors que c'était dégueulasse à l'écran, alors que le Comte de Monte Cristo, par contre, c'est plutôt joli à l'écran. Beaucoup tourné en décor naturel, comme les Trois Mousquetaires, avec plein de bâtiments français un peu partout qui sont utilisés, donc ça marche bien. Le port de Marseille, par contre, a pas été tourné à Marseille, ça a été tourné à Malte, mais ça marche vraiment bien aussi. Voilà pour le côté production, les chiffres. Alors, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'avais peur de la durée. Ça dure 3 heures. C'est beaucoup, surtout pour un film français, pour moi en tout cas. J'avais vraiment peur de ça. Et franchement, c'est probablement l'un des plus gros points forts du film. Je n'ai pas vu passer les 3 heures. Ça marche bien. On comprend tout. Ils ont changé quelques détails par rapport au roman, mais voilà, c'est des trucs mineurs. Ça fluidifie un peu l'histoire. Mais franchement, c'est quelque part, c'est bien d'avoir pris 3 heures parce que il fallait que qu'on prenne le temps.
Ça mérite un peu, hein, je pense. Il y a quand même beaucoup, ouais. Quoi, tu vois.
Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, ça aurait presque mérité de faire 2 films, hein, pour être franc. Ouais. Mais bon. C'est un film. Alors, il n'y a pas beaucoup d'action. Je dis ça pour, si vous l'avez pas vu. C'est vraiment de la manipulation. C'est des dialogues. C'est des choses comme ça. Mais il n'y a pas. C'est pas un film de cap et d'épée comme les Trois Mousquetaires, en fait. Il y a quelques combats, mais il y en a vraiment très très peu sur 3 heures. C'est vraiment pas le cœur du truc. C'est de la manipulation, en fait. Et c'est assez malin parce que il y a des choses très tordues qui se passent comme prévu, mais tout ne marche pas non plus toujours comme prévu. Donc c'est assez palpitant. On suit le truc. Et c'est vrai que la longueur permet qu'au début, ben, on fait vraiment connaissance avec Edmond Dantès, on a un tout petit peu le temps de s'installer avec lui, de comprendre un peu qui il est. Mais surtout après, on va passer un temps fou en prison avec lui, et ça, je pense que c'était nécessaire pour bien comprendre par quoi il passe, et c'est bien, quoi. Et ça reste
pour justifier
encore
en fait
trop
ce qu'il fait, quoi.
Mais ouais, mais c'est nécessaire, ouais, c'est vraiment nécessaire. Et après toute la vengeance, ben là c'est très long aussi, mais c'est bien, quoi, ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Les autres persos, ceux qui jouent les salauds qui l'ont trahi, franchement, ils sont vraiment bien interprétés aussi. Je sais plus, on a Bastien Bouillon, on a Laurent Lafitte qui, alors lui, il est parfait pour jouer les saloperies. Ça marche vraiment bien. Donc ouais, non, franchement, il y a. On a Anaïs de Moustier, hein, qui joue Mercedes, qui était sa promise, mais qu'il va retrouver bien plus tard. Alors, ce qui me fait penser à un des trucs qui marche pas. Il y a quand même quelques trucs qui marchent pas dans le film. Il y a un truc qu'ils arrivent pas à nous vendre, c'est le fait que personne ne le reconnaisse. Certes, il y a beaucoup d'années qui sont passées. Certes, il est maquillé avec une balafre, avec un nez différent, mais le maquillage est très léger, vraiment super léger, et à aucun moment tu peux croire qu'ils le reconnaissent pas. En fait.
Mais après, je sais pas, est-ce que tu pourrais le croire dans le sens où en fait ils ne peuvent pas imaginer que cette personne-là soit cette personne-là.
C'est vrai. Ouais, mais il a ouais. D'accord, mais il lui ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, tu vois.
Oui, mais tu vois, il y a un côté où je pense... Enfin, moi, je pense que tu pourrais le justifier sur ça. Mmh. C'était quelqu'un de pas important, ils l'ont détruit, et ouais, ils ne peuvent pas imaginer que cette personne-là soit importante, maintenant.
Oui, c'est vrai aussi. Pour eux, ça peut pas être le même personnage, il n'y a aucun lien, donc oui, ça marche, mais...
C'est juste, toi, tu dois faire une suspension of disbelief. Ouais, alors que peut-être que pour eux, c'est relativement normal, tu vois.
Admettons. Mais je suis pas le seul à avoir relevé ce point. Vraiment, ça reste difficile, ça marche pas, quoi. Je veux dire, au début du film, je vois très bien que c'est Pierre Niney, et plus tard dans le film, qu'il ait le maquillage ou pas, ça reste Pierre Niney, en fait. Je veux dire, tu ne peux pas ne pas le reconnaître. Mm-hmm. Par contre, il y a quelques scènes où il a d'autres maquillages, où là, c'est bluffant. Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait prendre au piège et qui n'ont absolument pas reconnu Pierre Niney. Donc, comme quoi, ils étaient capables, tu vois.
Ouais, à mon avis, c'est un choix. Hein. C'est aussi un choix que, veux pas tout le temps le cacher non plus.
Ouais, ouais. Je pense parce que c'est un peu un moteur aussi marketing du film de dire, bon, bah, venez voir le film avec Pierre Niney, mais du coup, on va pas le défigurer pendant tout le film, quoi.
Mais je pense que tu peux honnêtement le justifier de la manière dont j'ai dit.
Ça peut.
Parce qu'il y a un côté où, tu sais, il n'était pas important pour eux, quoi.
Mmh. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, j'ai un peu atteint le bout de ce que je voulais dire sur le film. Hein. J'ai vraiment bien aimé. J'essaie de réfléchir s'il y a quelque chose que j'oublierais éventuellement. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, voilà, vraiment chouette. Ça marche, c'est beau, tu vois l'argent, c'est très bien rythmé, il y a des beaux décors, tous les acteurs sont bons, le scénario est bien écrit, bien ficelé, j'ai quasiment pas de défauts à part ce petit détail de maquillage où des fois ça me fait sortir du film, mais c'est mineur, vraiment. Très 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 belle réussite pour ce conte de Monte Cristo. Et en plus ça cartonne, je crois qu'il est à plus de 8 millions d'entrées, c'est le deuxième plus gros box-office en France en 2024, il est encore à l'affiche dans pas mal de cinémas, il va pas tarder à partir là, je pense pas que les salles sont pleines, mais au début les salles étaient blindées, hein. Pendant les premières semaines c'était impressionnant, comme quoi il y a une demande, tu vois, pour des bons, beaux, grands films. Ouais. Des aventures, un peu de fric à l'écran, mais pour nous emmener en voyage, quoi, pour nous raconter une histoire, quoi, et arrêter de produire que des comédies françaises de merde, voilà. Bon, je dis ça, mais le film français qui cartonne au box-office et qui est devant Le Comte de Monte Cristo, c'est une comédie, c'est le fameux Un petit truc en plus de, je sais plus comment il s'appelle, Artus, que j'ai refusé d'aller voir. Parce qu'on m'a... Non, oui, on m'a proposé, mais c'était les collègues qui voulaient faire une sortie et ils m'ont dit ouais, tu viens avec nous, ça a l'air trop bien et tout. Alors la première question, j'ai dit je sais même pas de quoi vous me parlez. Ils m'ont montré la bande annonce, j'ai dit je vais pas voir ça.
Moi, je vais pas voir ça en full. Tu peux leur dire.
Jamais de la vie.
Je suis motivé par un full.
Non mais il paraît que c'est pas aussi horrible que moi je l'avais perçu. Il paraît que c'est une jolie comédie sur les handicapés. Oui, parce que quand on fait pas des comédies racistes, on se moque des handicapés. Mais là, apparemment, c'est plutôt bien tourné. C'est vraiment bien tourné, a priori. Donc je lui laisse le bénéfice du doute. C'est juste que j'ai aucune envie de voir ça en salle parce que c'est filmé comme un téléfilm. Donc ça n'a aucun intérêt d'être vu en salle pour moi. Voilà pourquoi j'ai pas été voir Un petit truc en plus au cinéma. Mais Le Comte de Monte Cristo, franchement, ça vaut le coup, ça vaut le détour, bravo. Moi, je le reverrai probablement jamais, mais en tout cas, parce que c'est pas, voilà, c'est pas le genre qui me transporte le plus. Mais vraiment, j'ai été très agréablement surpris. C'est vraiment un bon film. Voilà.
Okay.
Voilà, voilà, pour le Comte de Monte Cristo. Passons à quelque chose d'assez différent.
Ouais, on enchaîne sur The Bike Riders de Jeff Nichols. Un réalisateur qu'on aime bien tous les deux, on a fait pas mal de ses films. Hein. On a fait.
Ben ouais, mine de rien, ouais.
Je sais pas si on a fait des foules sur tout, mais on a parlé de Take Shelter, on a parlé de Midnight Special qu'on avait tous les deux adoré. Enfin, moi j'adore Take Shelter encore plus.
J'ai mis très longtemps à le voir, mais j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu.
On a aussi parlé de Loving, je pense.
Mais c'est celui-là, ça me dit rien. Je me demande si je l'ai pas raté.
Je suis quasi sûr que tu l'as vu, parce que c'est sur un mariage entre une femme noire et un homme blanc. À l'époque c'était.
Je m'en souviens. J'ai adoré.
Je suis quasi sûr que tu l'as vu.
Oui, c'est vrai. J'avais adoré. J'avais oublié que c'était lui. Ok.
Donc il revient avec un film. Donc il revient avec un film complètement différent. Hein. On va parler du début des clubs de moto.
Ouais. C'est ça. C'est en fait à la base c'est un livre de photos qui date de je sais plus trop quand d'ailleurs qui est assez ancien je crois. En fait c'était un photographe qui suivait justement un club de bikers qui était à la base comme tu le dis juste des potes bikers qui voulaient juste faire un peu des virées ensemble, mais qui après, tout ça a commencé à devenir des gangs avec du trafic, avec voilà quoi, des organisations un peu criminelles. Bah, mais on parle vraiment...
Le club le plus connu, c'est les Hells Angels. Quoi. Celui Bien que sûr. Tout le monde connaît. Ouais. Donc c'est le même style, mais c'est le troisième plus gros derrière les Hells Angels et les Bandidos.
Ouais, c'est ça. Mais là, on parle pas de là le livre de photos qui était sorti à l'origine, c'était sur les Outlaws Motorcycle Club. Bon, pour le film, il a changé le nom, il a
appelé ça
les Vandals. Mais voilà, en gros, c'est un livre de photos de très belles photos en noir et blanc d'un photographe qui avait suivi ce club de bikers et Jeff Nichols en fait s'en est inspiré pour construire une histoire, construire des personnages et recréer l'ambiance de ces photos et recréer toute une époque en fait. On est dans les années 60 au début en tout cas parce que ça s'étale sur quasiment une décennie voilà il a pris le livre de photos et il a construit un univers, des personnages, une histoire. Alors une histoire avec des gros guillemets. On va en reparler. Mais voilà, en fait, ça fait 20 ans que Jeff Nichols voulait réaliser ce film, qu'il avait envie de raconter l'histoire d'un gang de bikers. Depuis 2004, il en parlait à Michael Shannon, hein, Michael Shannon qui est un peu son acteur phare puisqu'il est apparu dans tous ses films, y compris celui-là. Et à chaque fois qu'ils tournaient ensemble, à chaque fois Jeff Nichols en parlait à Michael Shannon et il disait ouais, il faut qu'on fasse ce film sur les motards et tout. Et voilà quoi. Et puis Michael Shannon a déjà déclaré, il a dit ouais, oui, ça fait longtemps qu'il m'en parlait et tout. Bref. Jeff Nichols s'est enfin mis à l'écriture du projet en 2022. Donc, encore une fois, l'histoire, elle est totalement originale. Elle est complètement construite par Jeff Nichols. Voilà. Et New Regency a accepté de produire le film en 2022. Donc, tout ça a été confirmé en 2022 avec Austin Butler et Jodie Comer dans les rôles principaux, accompagnés de près de Tom Hardy. Tom Hardy qui joue le rôle du fondateur en fait de ce club de bikers.
Ouais.
Chose intéressante oui sur le casting de Jodie Comer parce que elle c'est un peu la narratrice du truc en fait dans le film. Alors pourquoi il l'a castée, c'est parce qu'en fait Adam Driver qui en a parlé à Jeff Nichols, il lui a dit qu'il avait joué avec elle dans le film Le Dernier Duel de Ridley Scott, qui était effectivement très bon, où elle était excellente dedans. Excellent. Et donc c'est comme ça que Jeff Nichols a été voir en fait ce qu'elle faisait au théâtre et qu'il l'a castée. Voilà. Et puis par contre, quand il a été voir Tom Hardy, c'était complètement dans une ambiance complètement différente parce qu'apparemment ils se sont bourrés la gueule en fait tous les deux, justement avant d'aller voir la pièce dans laquelle jouait Jodie Comer. Donc voilà, mais souvent c'est rigolo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le tournage s'est déroulé à Cincinnati dans l'Ohio en octobre 2022 et c'est terminé en décembre. Plusieurs acteurs ont dû apprendre à conduire une moto pour le film, parce que oui, là c'est un peu essentiel, hein, puisqu'en plus on doit les voir vraiment en train de conduire. Il y a eu un accident de moto. Pendant le tournage, parce qu'il y a eu un tournage de nuit. Alors surtout, ils ont tourné en fin d'année, donc les routes sont humides et justement là, il y avait des feuilles. Des feuilles mortes, et ça c'est ultra dangereux pour les motards, les feuilles mortes humides, apparemment tu roules là-dessus, c'est comme une patinoire. Donc c'est Austin Butler qui a failli se vautrer en fait, qui a glissé sur des feuilles mortes, et il a réussi à retomber sur ses pieds, quoi. En tout cas, il a réussi à pas trop se faire mal. Voilà,
c'est voilà, à peu près tout. Un truc marrant à faire avec ta main, c'est si tu prends ta main et tu la mets sur le côté, donc pas vers tes doigts vers le ciel, mais vers le ça c'est la majorité des voitures, c'est le contact patch, donc ce qui touche la route de ton pneu.
Ah oui,
sur une voiture.
Sur une voiture, oui.
Donc
oui,
x4. Ouais, x4, donc t'as ça.
x4.
C'est tout petit, hein, déjà. Ouais.
C'est minuscule.
Et ouais. Bon, t'as des pneus plus gros sur des voitures de sport, etc. Mais
oui, bien
tu
sûr.
Vois, sur une voiture normale, sur des pneus genre du 180 ou du 200. Imagine sur une moto qui a un pneu deux fois plus petit, hein, au minimum, ouais. En général. Oh, et oui, qui en a que deux.
Au moins. Et qui en a que deux. C'est intéressant que tu dis ça parce que je l'ai appris, en fait. Hein. Je l'ai appris il y a quelques mois, puisque j'ai passé mon permis moto cette année. Et justement, quand je révisais pour le code moto, c'est là que... c'est pareil, tu vois, ils te donnent pas une taille en centimètres. Ils disent en fait que la surface de contact d'une moto avec le sol, c'est l'équivalent de la surface d'une carte de crédit.
Ouais, c'est ce que j'aurais pensé.
Voilà. Donc ouais, quand tu mets ça en perspective, tu te rends compte que waouh, ça tient pas à grand chose.
C'est pour ça que je suis toujours partisan d'acheter des très bons pneus. J'ai toujours été pro bon pneu. Je trouve que c'est un des trucs les
c'est
plus importants. Et en plus, en général, c'est même pas spécialement plus cher vu qu'ils tiennent plus longtemps, etc.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'es gagnant à prendre des bons pneus en général,
je trouve. J'ai toujours été un petit peu extrême avec ça. Mais c'est encore plus vrai en moto.
En moto, c'est, voilà quoi, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Alors, c'est rigolo parce que moi, le film, en plus, je l'ai vu littéralement 3-4 jours avant de passer mon permis moto. Et du coup, j'étais un peu déçu d'ailleurs, tiens, de ce côté-là, parce que je trouve que, alors la mise en scène de Jeff Nichols, elle est bien, hein, je veux dire, il y a pas de souci, c'est un mec qui s'est filmé et tout, mais je me posais la question si dans le film, tu vois, il allait vraiment montrer les motos, tu vois, bien filmer les motos, et en fait, non, visiblement pas trop.
Il s'en fout un peu.
Il s'en fout un peu, ouais, et c'est un peu dommage. Ouais. J'étais un peu déçu de ça, quoi. Alors que le film visuellement est plutôt chouette.
Je le trouve pas. J'aime bien le ton. Je trouve que la photo est jolie.
Il met jamais l'accent sur les motos elles-mêmes. Ouais. Par contre, c'est con, hein, parce qu'il y a des motos superbes, hein, dans le truc. Ouais. Mais ouais.
Non, c'est plutôt sur la camaraderie du club. Hein.
Ouais, c'est les personnages, ouais. Quoi. Mais ouais.
Et les personnages, je trouve que tous les acteurs sont excellents.
Ah oui, il n'y a pas photo.
Ils ont tous un style. Cathy, Jodie Comer, elle est parfaite dans son rôle. Austin Butler, il est excellent.
Il est incroyable. Ouais, il a une présence, il a un charisme.
Ouais, un charisme fou, de malade, quoi. Vraiment, genre, tu sens pourquoi il est aussi magnétique. Et il le vend, hein, d'être aussi magnétique.
Ah oui, c'est complètement, c'est ce que raconte le film, hein, d'ailleurs. C'est littéralement.
Ce côté vraiment détaché est incroyable. Tom Hardy, ça marche super bien. Puis les autres persos sont un peu moins présents, mais Michael Shannon, ça marche super bien.
Ouais.
Non, je trouve qu'ils sont tous vraiment bons. Celui qu'ils appellent The Kid, il est inquiétant instantanément.
Oui. Ah oui, à fond. Ouais, c'est clair. C'est clair. Là-dessus, on est d'accord. Ouais. Sauf qu'on peut pas arrêter notre critique là, en fait.
Ben, en fait, j'ai vraiment pas envie de le critiquer parce que.
Ben, ça me fait chier aussi, mais.
J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai l'impression que je me convainc que j'ai pas passé un mauvais moment. Ah. J'ai envie d'aimer le film, tu vois. J'ai plus envie d'aimer le film que ce que j'ai aimé le film.
Ouais.
Mais c'était pas mauvais, je trouve que visuellement ça marche bien. L'histoire est faible, mais ça avance quand même, quoi. Tu vois, c'est juste que ça avance un peu, ça avance par ellipse, quoi.
Oui.
Et c'est un peu frustrant parce que il y a des moments où tu te dis, bon, tu vas où? Et en fait, nulle part.
Un peu nulle part, ouais. C'est un peu ça le problème. C'est pas une histoire. Et c'est bizarre, hein, parce qu'il manque pas grand-chose pour que ce soit une histoire complète. Ouais. Mais visiblement, c'est pas ça qu'il voulait raconter.
Non. Il voulait raconter des photos, en fait. Hein.
Ouais, juste des petites tranches, des petits moments de vie.
Quand tu le prends comme une adaptation d'un livre de photos, si tu oublies le fait qu'il est censé avoir écrit un scénario, tu vois, c'est ce qu'il fait, quoi. Il prend, sur cette photo-là, je vais créer une petite histoire. Ouais, et c'est un enchaînement de ça pendant, je sais pas, 2 heures.
C'est 2 bonnes heures minimum, ouais.
Moins de 2 heures. 1h50, 56. Et c'est vraiment ça, quoi, tu vois. C'est connecté entre elles.
Mm.
Mais c'est vraiment des petites vignettes.
Ouais. Mais c'est ça le défaut du film, du coup. Ça manque un peu de...
En tant qu'adaptation d'un livre de photos, c'est très bien fait, hein.
Ça se tient, ouais. Bah visuellement, c'est vraiment classe, mais ça manque d'enjeu, ça manque de, ouais, je sais pas. Il y a
pas un arc, quoi. Il y a pas d'arc narratif à propos de Kid. Tu vois, il y a une évolution du perso parce qu'on le voit 2 fois.
Bien sûr.
Mais tu comprends pourquoi il peut en être arrivé là, mais tu dois faire des connexions, quoi. Tu dois vraiment construire l'histoire toi-même, en fait.
Ouais,
c'est
ça
qui est un petit peu frustrant, je dirais.
Un peu trop, même. Ouais, parce que tu vois, le personnage d'Austin Butler, il est beau, il est charismatique. Ouais. Et le problème, c'est qu'il fait pas grand chose d'autre que d'être beau et charismatique, en fait. Et pourtant, il est dans quasiment toutes les scènes.
Ouais, mais ça renforce son côté charismatique, hein, je trouve.
Oui, et un peu mystérieux, du coup, c'est vrai. Mais il manque un truc.
Son magnétisme, je trouve, est parce qu'il est silencieux. Et parce qu'il est inquiétant, comme ça. Tu comprends pourquoi les gens serait complètement fou de lui, tu vois, je trouve.
Oui. Oui, c'est vrai.
Bon, il y a des scènes qui sont quand même dures, hein, aussi.
Ah, il y a des scènes très dures, il y a des moments dramatiques. Et ça marche. Mais, je sais pas. Pourtant, on apprécie de passer du temps avec ces personnages, on s'attache à ces personnages, mais pas au point d'être dévasté quand il arrive un truc moche, tu vois.
Pas complètement dévasté, mais quand même j'étais un peu triste.
Moi je trouve que il a un peu, encore une fois, il y a une logique avec le fait que ce soit l'adaptation d'un livre de photos, c'est qu'il garde la posture un peu extérieure justement du mec qui prend les photos, quoi. Voilà, très journalistique, qui s'implique pas, et du coup émotionnellement, moi j'ai pas réussi à m'impliquer, en fait. Alors, parce qu'il garde un point de vue.
Je crois pas que c'est pour ça que j'arrivais pas à m'impliquer. Moi, c'est un peu pour le côté vraiment, tu restes là. En partie, le fait que la majorité de la narration est par Cathy. Et tu te dis quand même, quoi, tu vois. T'as eu plein d'opportunités de partir de cet environnement négatif. Toxique.
Oui aussi. Ah oui.
Plus ça, au final, je trouve, qui est un peu. Qui m'empêche un petit peu de rentrer avec eux. C'est que. Ouais. Je peux pas vraiment m'identifier, mais pas parce que l'angle est pas à cause de l'angle de la réal, tu vois, mais plutôt à cause des que je peux pas m'identifier à ces personnes-là. Mais j'ai quand même envie de le conseiller parce que je trouve qu'il a quand même des points forts. C'est juste que ouais. Oui, il faut un petit peu accepter que tu vas construire ouais. l'histoire toi-même.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et oui, oui, c'est ça. Le rythme est très posé, tranquille, on regarde des gens, des belles images, des belles motos, mais on va pas être impliqué, on va pas être embarqué dans une histoire de fou, quoi, en fait. Mmh. C'est un peu dommage. Mais je le conseillerais aussi, oui, c'est plutôt joli. Par contre, moi, je me précipiterais pas pour le revoir, par contre.
Non, tu vois, mais je suis content de l'avoir vu aussi.
Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, voilà, c'est à peu près tout. Moi, j'ai bon, alors le problème, c'est que ça fait un moment aussi. Hein. C'était quoi, le 19 juin qu'il est sorti. Je sais que je l'ai vu très rapidement après sa sortie, mais là, c'est un peu loin et ouais, j'ai du mal à me souvenir. Ouais, j'ai quelques souvenirs de quelques passages vite fait, mais je non, me souviens
moi,
pas de grand chose.
Je me rappelle
chose,
de pas mal de scènes, franchement.
Ah ouais,
les scènes okay. fortes, tu vois, entre Benny, Johnny, les scènes avec The Kid. J'ai vraiment visuellement, je vois la scène, quoi.
Ah ouais, okay.
Donc, j'ai peut-être plus aimé que toi hein, aussi.
C'est possible, ouais. Mais j'ai pas détesté. Hein. Moi, j'ai trouvé que tout était génial. C'est juste qu'il m'a tout était bien fait. C'est juste qu'il m'a pas embarqué.
J'aurais bien aimé un petit peu plus vivre avec eux un petit peu plus en fait, plutôt ouais. que de. Donc oui, c'est peut-être ouais. l'angle de la caméra hein, qui me pose problème aussi. Mais ouais, ça vaut la peine essayer de le voir quand il sort en VOD.
Ouais, ouais, je pense, largement. Ouais, ouais. D'autant plus si on s'intéresse un peu à la moto, aux gangs de motards et au premier vrai grand gang de motards et justement comment c'est devenu un gang en fait. Même si ça prend un temps fou pour le raconter et que c'est pas le cœur du sujet, bah c'est raconté quand même. Voilà.
T'imagines que les républicains de maintenant, c'était faux, hein, mais t'as vu l'histoire que les Hells Angels étaient censés aller au Colorado pour virer je ne sais pas quel immigrant, The Immigrant of the Week qui les ennuie, tu vois.
Ah ouais, ouais. Non, je suis pas contre.
C'était complètement fabriqué, hein, mais c'est l'idée que les républicains sont maintenant pro-Hells Angels.
Ok.
C'est juste...
Ça devient n'importe quoi.
De toute façon,
c'est vraiment...
ils sont pro n'importe quoi qui n'est pas... qui est blanc. Quoi.
Ouais.
En fait, si t'es pas blanc, tu peux être la pire personne. Peux être la meilleure personne, ça change à rien. Et si t'es blanc, c'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux.
Ouais, c'est ça.
Mais je sais plus c'était pour quel truc, mais c'était un truc au Colorado. Après, okay. ils sont vite passés sur les Haïtiens dans l'Ohio, justement.
Ah oui, ok, oui.
Donc c'est leur Immigrant of the Week.
Oui, en ce moment c'est vraiment ça, oui. Ouais. N'importe quoi, bref, ouais. Bref.
Non, c'est juste l'idée que, imagine comment les républicains, l'équivalent des républicains à l'époque, pensaient de ces motorcycle clubs.
Bah pour eux c'était les pires gangsters, voilà. Quoi, c'est sûr.
Tu vois,
ouais.
Ils encouragent les Hells Angels. Bon, après, les Hells Angels, à mon avis, se sont un peu boomerisés, hein, quand même, je pense.
Y a moyen. Ouais, je connais pas le sujet, mais oui, il y a moyen. Ouais, bon. Ouais, c'est rigolo, c'est vrai. C'était des gars qui étaient complètement anti-establishment, c'était pas des mecs qui étaient forcément très agréables. Hein. Là, ils sont un peu romantisés dans le film. Hein.
Ouais, mais quand même, ça... ils les romantisent, mais pas quand même non plus trop, tu vois, je trouve.
Ouais,
ils sont quand même un peu tarés. Trop. Hein.
Ils sont un peu cinglés, ils traînent, ils baignent dans des trucs un peu louches.
Il y a quand
louches.
Même un moment où il y a une soirée où c'est borderline, quoi, tu vois.
Ouais, c'est très limite. Ouais, non, c'est clair. Non, c'était, voilà. Mais c'était ce qu'on appelait à l'époque des mauvais garçons.
Ouais. Bad boys.
C'est rigolo. Bref. Bon, le film, c'est un peu vautré, hein, par contre. Hein, pour un budget de 30-40 millions, il en a rapporté que 35. Ouais. Pas grand monde a été sensible aux belles images et à cette histoire. C'est dommage.
Après, c'est pas non plus un peu méga mieux. Choquant pour lui. Hein.
Non,
ces
pour lui.
Ces films font rarement des budgets gigantesques.
Ben, je suis limite surpris qu'il ait coûté si cher, en fait. J'aurais pas pensé qu'il aurait coûté autant, mais... Ok.
Ouais. Ok. J'enchaîne sur notre avant-dernier film, que tu n'as pas vu. Inside Out 2.
Vice-versa 2, en bon français. Ouais.
Donc la suite de Inside Out, donc en coming of age, mais sauf que à la place d'être... je sais plus quel âge elle avait, Riley, dans le premier Inside Out.
Bon, elle était gamine, elle devait avoir. Ouais, moins de 10 ans, je pense. Ouais.
Donc maintenant, elle a 13 ans. Elle avait 11 ans, en fait.
Ah, elle avait 11 ans, bon, j'aurais pas dit.
Okay. Donc elle avait 11 ans, donc elle était pré-ado, et maintenant, elle a 13 ans, adolescente. Ce qui veut dire qu'elle va avoir des nouvelles émotions.
Ah, incroyable.
Donc, en plus de joy, de anger, de fear et de sadness, elle va maintenant avoir anxiety.
Ah oui, c'est vrai. C'était ça la grande nouveauté. Ouais.
Anxiety, l'anxiété. disgust,
le dégoût,
envy, ennui.
L'envie.
Interprété par Adèle Exarchopoulos, qui joue ennui. Et ils l'ont appelé ennui.
Ah oui, mais même en VO, bah ouais, c'est Adèle Exarchopoulos. C'est drôle. Okay.
Embarrassment. Je crois que c'est tout. Non, il y a une autre. C'est Anxiety. Donc en fait, c'est un peu le même style que le premier. Hein, donc si vous avez bien aimé le premier, ça marche bien ici aussi. C'est juste un coming of age sur le début de l'adolescence et toutes ces émotions qui apparaissent et qui foutent la merde. C'est bien retranscrit, tu vois, parce que en fait, Joy, qui était son émotion principale, se fait reléguer au deuxième rang et Anxiety prend le rôle de leader.
D'accord.
Mais ça, ce qui veut dire beaucoup, parce qu'en fait, si tu vis toute ta, enfin, tu vois, c'est des symboles, que je trouve qui sont super importants pour les enfants, hein, mais si tu vis toute ta vie dans l'anxiété, bah tu vas faire plein de décisions qui sont pas bien pour toi, qui vont empirer ta vie. Donc c'est tous ces sujets là, mais c'est super joli, c'est bien écrit, c'est émouvant. C'est un Pixar, je sais pas, c'est un tier one Pixar, je sais pas comment on doit aller, parce que maintenant il y a des mauvais Pixar, donc. C'est un bon Pixar, quoi. C'est pas aussi bon que le premier. C'est pas le meilleur Pixar. C'est pas au niveau de Coco, de Up ou de Inside Out. Mais c'est juste le cran en dessous qui est quand même bon, quoi, tu vois.
Ouais, ok.
C'est un tout petit peu moins émouvant que le premier, mais ça reste émouvant. Ça fait quand même pleurer la majorité des gens. J'ai bien aimé. Je sais pas, t'avais pas aimé le premier Inside Out, tu m'en rappelles pas.
C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça sympa, mais rien d'incroyable non plus. Il y a rien qui m'a marqué, je me souviens de rien. J'ai vu un film d'animation sympa, puis voilà. Tu vois, basta. C'est pour ça qu'en fait, j'ai même pas été voir le deuxième. Je sais que ça marche pas sur moi, c'est pas nouveau. Ça n'a aucun lien avec la qualité du truc, c'est juste ça marche pas sur moi, en fait. Et j'avais le feeling que ce serait probablement une redite du premier.
C'est ce que j'ai entendu. Une extension du premier, moi, je dirais.
Une extension, ok.
Ce qui est logique, c'est littéralement, les nouveaux... je peux pas critiquer ça a parfaitement du sens, quoi. Tu continues à vivre avec Riley et elle a des nouvelles émotions. Ça marche bien. Je sais pas combien de fois ils peuvent le faire parce que bon, il va y en avoir de moins en moins. Mais, mais ça marche bien, je trouve. C'est le plus gros film de l'année. C'est le plus gros film d'animation de tous les temps.
Oui, c'est hallucinant. Effectivement, il fait un box-office monstrueux. Pour un budget de 200 millions, il en est à un box-office de presque 1 milliard, presque 1,7 milliard. C'est colossal. c'est colossal. Oui, effectivement, c'est le plus gros box-office jamais enregistré pour un film d'animation. C'est le plus gros box-office de cette année 2024 au cinéma dans le monde. Et c'est le 8e plus gros box-office de tous les temps, non ajusté pour l'inflation, bien sûr.
Après, la majorité des nouveaux... Je pense pas qu'il y ait des masses de... qui le dépasseraient, même si tu ajustais, parce qu'ils ils sont pas si vieux que ça, tu vois. Ils seraient peut-être 10e, quoi.
Je peux te le dire. Attends, normalement, je l'ai. Hein. Ajusté... Ouais, non, il est loin. Non.
Oui, parce qu'ils mettent plus les trucs vraiment vieux, si tu le fais.
Ah oui, ils mettent des trucs très très vieux. J'en ai parlé dans mes cours d'histoire du cinéma, mais Autant d'Emporte le Vent est indépassable avec ses 4 milliards et quelques ajustés pour l'inflation. Et même Avatar, Titanic, qui sont proches des 4 milliards, même le premier Star Wars, 3 milliards et demi, c'est inatteignable. Inatteignable. Donc voilà, quand tu vois que la 10e position, c'est 2 milliards et demi... ajusté pour l'inflation avec Star Wars 7, on en est encore loin en fait. Mais bref, bon. C'est vrai que cette liste des box office non ajustés pour l'inflation, je trouve plus j'y pense, plus je trouve qu'elle a pas de sens, mais bon bref. Ça fait plaisir de voir que voilà.
Le problème c'est que quand tu prends des trucs comme Gone with the Wind, honnêtement, c'est un calcul, c'est tellement vieux que vraiment, c'est compliqué à ajuster proprement.
C'est vrai aussi, parce que c'est dans un contexte tellement différent, dans un cinéma, une industrie du cinéma tellement différente de l'actuelle.
C'est que tu fais des ajustements où tu changes les revenus, mais tu changes aussi les tickets de cinéma.
Ouais, c'est ça.
Là, je trouve que tu commences à faire un petit changement qui est un peu risqué, parce que tu fais des averages sur des sommes qui étaient complètement différentes à l'époque.
Ouais, c'est ça.
Je trouve que ça marche pas trop. Si tu fais juste les revenus, ça marche, tu vois.
Ouais. Mais bref, ça reste
un bon succès. Je suis content que ce soit le meilleur film de l'année. C'est dans les box-office, oui, il y a des films que j'ai préférés que Inside Out. Mais tu vois, il mérite d'être en haut. Enfin, c'est mieux que ce soit lui en haut de cette liste que les suivants.
Ok. Oui, c'est vrai, en plus. Oui, il y a des trucs vraiment honteux dans les gros box-office. Mais je te crois, moi, c'est sûrement chouette.
Cette année, il y a très peu de... au-dessus du milliard. Hein. Ils sont que deux.
Oui, je sais. Ils ont du mal cette année, ouais. Mais celui-là, il est parti vraiment très haut, très vite. C'est impressionnant. Tant mieux, c'est peut-être ce dont le public avait besoin maintenant. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi, quoi.
Et on enchaîne sur plutôt un failure au box-office pour le coup.
Ouais, c'est vrai. Je pense que ça doit être considéré comme un plantage. On va parler de The Fall Guy de David Leitch, adaptation moderne et pas très fidèle de la série L'homme qui tombe à pic. Alors ça, je le dis parce que en fait, personne n'est au courant en France. Personne n'a fait le lien, ou très peu de gens, parce que pour une raison qui m'échappe, en France, ils ont sorti le film sous son titre original, The Fall Guy, et ils n'ont pas traduit le titre en L'homme qui tombe à pic. Et je comprends pas pourquoi, parce que je suis certain que ça aurait attiré toute une génération dans les salles s'ils avaient fait le lien. Mais là, je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui n'ont pas du tout fait le lien, qui ne savaient pas que c'était une nouvelle version des aventures de Colt Sivers, le cascadeur au grand cœur. Mais c'est vrai, hein, plein de gens n'ont pas fait le lien. Donc, je vais commencer juste très rapidement par ça. L'homme qui tombe à pic, The Fall Guy, série télévisée, culte des années 80. Qui a été diffusé aux États-Unis de 1981 à 1986, série créée par Glenn Larson. Je rappelle, un gros producteur pendant les années 80. Glenn Larson, c'est aussi K2000 et la série originale Battlestar Galactica, rien que ça. Voilà, avec évidemment Lee Majors dans le rôle principal, dans le rôle de Colt Sivers. Lee Majors, c'était mon héros quand j'étais petit. C'était, il y a eu une époque où, quand j'étais à l'école primaire, je sais que c'était ma série préférée. Je rêvais d'avoir le même pick-up que Colt Sivers. Je ratais pas un épisode. J'adorais cette série. Le générique était fabuleux. Je ne savais pas à l'époque que le générique original, alors c'est la même chanson, enfin c'est la même mélodie de chanson, l'original et le français, sauf que dans la version originale c'était Lee Majors lui-même qui chantait le générique en français. Bon, c'était un chanteur français, je sais pas qui, ouais, je sais plus qui en tout cas, mais voilà, j'adorais cette série. Je savais même pas qu'il y avait 5 saisons, je sais absolument pas si j'ai tout vu, c'est très peu probable, mais en tout cas ça a été une série très très importante pour moi, L'homme qui tombe à pic. Et en fait, ben, ça fait un petit moment qu'ils essayaient d'en faire une version pour le grand écran, puisque on avait appris en 2010, donc il y a 14 ans, par le biais du journal le Los Angeles Times, que ils étaient en train de travailler sur un film, L'homme qui tombe à pic. D'ailleurs, à l'époque, ça aurait dû être réalisé par Martin Campbell. Martin Campbell, je rappelle, c'est quand même GoldenEye, c'est Casino Royale, c'est Le Masque de Zorro. Voilà, ça aurait pu donner quelque chose de sympa. Alors, c'est Martin Campbell, là, je cite que ses meilleurs films, il a fait aussi des Merdes Immondes, hein. puisque si je dis pas de bêtises, c'était lui qui avait fait, le truc infâme, là, comment ça s'appelle? Green Lantern, voilà, c'était ça. Ouais, c'était lui qui avait fait l'adaptation de Green Lantern, que je ne déteste pas, mais qui a effectivement des problèmes. Bref, c'est pas le sujet. En 2013, Dwayne Johnson, The Rock, était pressenti pour jouer le rôle titre de Colt Sivers. Entre-temps, ils avaient changé de réalisateur, ça devait être McGee qui devait réaliser L'homme qui tombe à pic. Moi, j'aurais trouvé ça cool, je sais, je fais partie des rares êtres humains à beaucoup aimer McGee, parce que j'adore ces deux films, Charlie's Angels, qu'il avait sortis au début des années 2000.
Ça pourrait marcher, après, hein. Il y a un petit côté un peu kitsch qui pourrait faire...
Là, je trouve que ça marcherait vraiment, vraiment bien. Ça aurait pu, en tout cas. Ça aurait pu. Bon, ça fait longtemps que McGee fait plus des films d'action de ce genre. Ouais, bon, bref. Puis il avait fait Terminator 4, qui était pas ouf. Et encore, ça fait partie, peut-être même encore, des bons trucs qu'il a fait. Bref. Donc, finalement, tout ça ne va nulle part.
Il continue à faire des tricks, en fait.
Oui, il continue de sortir des films. Il avait fait The Babysitter, qui était un petit film d'horreur sympa sur Netflix. Par contre, j'avais pas vu la suite. Mais très très loin de ces folies de réalisation de Charlie's Angels, quoi. Ouais. C'est vraiment comme s'il avait eu un coup de folie quand il était jeune, et puis il a plus jamais réussi à refaire des trucs derrière, quoi. Dommage. En 2013, ça donne rien, ni avec McGee à la réal, ni avec The Rock dans le rôle principal. Du coup, il se passe plus rien pendant pas mal d'années, jusqu'en 2020. Et en 2020, on apprend que le projet est de nouveau sur les rails, avec Ryan Gosling dans le rôle principal, David Leitch en réalisateur, et le scénariste Drew Pearce. Drew Pearce qui a notamment écrit Iron Man 3, Hobbs and Shaw, ou encore Mission Impossible Rogue Nation. En tout cas, en 2020, on a appris qu'il travaillait sur un film sur un cascadeur pour Universal. Et puis, c'était finalement, il a fallu presque 2 ans ou 1 an et demi pour qu'on apprenne en 2022 qu'en fait, ce projet était bien l'adaptation moderne de L'homme qui tombe à pic, mais seulement vaguement inspiré de la série L'homme qui tombe à pic. Le film a été tourné en Australie. Et franchement, ça a été une belle opération financière pour l'Australie, puisque ils ont on considère qu'il y a plus de 1000 Australiens qui ont été soit castés, soit qui ont tourné, enfin qui ont participé à l'équipe technique du film. Donc ça fait vraiment du monde et plus de 3000 figurants Donc ça, donc dans les 1000 que j'ai dit avant, il y avait même pas les figurants. Donc vraiment, ça, voilà, ça, c'est considéré comme étant une jolie opération pour l'économie australienne, qui ont en partie financé le film aussi. Ils disent que ils se sont inspirés alors pour le personnage de Colt Sivers, le personnage principal, et pour le personnage d'Emily Blunt, qui est le personnage féminin principal, qui s'appelle Jodie Moreno dans ce film, qui est son ex petite amie et qui est une réalisatrice qui fait ses débuts. Eh bien, le réalisateur David Leitch dit qu'il s'est inspiré. Mince, j'arrive plus à trouver la ligne où j'étais. Qui s'est inspiré de sa femme, de sa propre femme, Kelly McCormick, voilà, pour construire en fait la relation romantique entre le cascadeur et la réalisatrice. Il s'est inspiré de sa propre histoire, parce que David Leitch est un ancien cascadeur. J'en ai déjà parlé, mais je vais peut-être le redire vite fait. Et donc sa femme, qui est elle-même productrice. À la base, le rôle d'Emily Blunt devait être le rôle simplement d'une maquilleuse, mais finalement ils ont réécrit le rôle pour lui donner un peu plus d'importance et pour en faire une jeune réalisatrice qui fait ses débuts. Voilà. Et Emily Blunt dit, elle, qu'elle s'est inspirée de Greta Gerwig pour construire son personnage de réalisatrice. Le film a été tourné en Australie, je l'ai dit, donc au studio Disney. En Australie, le budget du film est de 130 millions, mais enfin c'est ce qui avait été annoncé en tout cas à la base. Maintenant, il y a d'autres sources qui disent que le film aurait coûté jusqu'à 150 millions. Étant donné que le réalisateur, donc David Leitch, est un ancien cascadeur lui-même, il a voulu mettre à l'honneur des vraies cascades dans le film, pas des trucs tournés sur fond vert, des vraies cascades effectuées sur le tournage, et évidemment avec un film qui met vachement en valeur le métier de cascadeur. Il le considère, son film, comme une lettre d'amour aux cascades. Il a dit qu'il savait qu'il fallait que ce soit authentique, et du coup il y a des côtés assez méta dans le film qui sont un peu rigolos, notamment au début du film. À un moment, ils font une cascade avec une voiture, c'est la première qu'ils font avec la voiture, et tu vois qu'ils sont tous complètement fous. Ils disent waouh, la voiture, elle a fait 8 tours et demi en l'air avant de retomber. Ils sont tous complètement fous. Ben pour le coup, c'est un vrai truc en fait, c'est un vrai record qui a été battu sur le tournage de ce film. Jamais une voiture n'avait fait 8 tours et demi en l'air, voilà. Et ça, ce n'est qu'un des trucs méta qui sont dans le film. Il y en a d'autres, parce que je sais qu'à un moment, il y a un autre perso qui demande à Ryan Gosling, est-ce qu'il existe un Oscar pour les cascadeurs? Et il dit, bah non, malheureusement non. Et bon, ça, c'est une vraie demande. Quand on y pense, c'est vrai que c'est barge.
Complètement, ouais. J'y ai jamais pensé avant. Ouais. Mais c'est complètement mais en fait, qu'il n'y ait pas d'Oscar pour les cascadeurs.
D'Oscar. Ouais, parce qu'ils font des trucs de fous, ils prennent des risques de fous, et c'est un vrai message que envoie David Leitch.
Bah, d'ailleurs, c'est peut-être un des trucs les plus cools du film. C'est vraiment ce côté où c'est vraiment une lettre d'amour à son métier.
Totalement.
Et c'est sincère, quoi. Il y a pas il y a pas d'ironie, il y a pas de. Non, c'est juste un mec qui adore ce métier-là, quoi. Bon, il a été le double du plus grand acteur de tous les temps, donc c'est compréhensible. Mais...
On parle de Keanu Reeves ou de quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Brad Pitt. Grand écart.
Ah, parce que lui aussi. Ah oui, je croyais qu'il n'avait pas besoin de doublure.
tu sais, quand tu fais trop de grand écart, il faut quelqu'un.
Ah ouais, il faut quelqu'un qui le fasse à ta place à un moment, quoi. Sacré Jean-Claude. Sacré Jean-Claude.
Faut pas s'abîmer, tu comprends? Quand t'es aussi important pour le monde, tu peux pas risquer tout le temps. Tu vois. Non, je sais pas. C'est ce que j'ai le plus aimé dans le film, parce que le film il est un peu con. Hein. Il a des moments.
Ah, il y a des. Il y a des moments débiles hein, aussi. Il y a. Mais voilà, pour redire juste David Leitch, il a été effectivement sa première partie de carrière, c'est d'être cascadeur. Donc vous le voyez pas parce qu'on voit pas son visage, mais petite sélection très rapide à la volée là de ce que j'ai sous les yeux. Mais il a fait des cascades dans Blade, dans Fight Club, dans The Substitute, mais je pense pas que ce soit le film original. Des Hommes d'honneur, Répliquant. Ah ben voilà un film avec Jean-Claude, dans Ocean's Eleven, Spy Game, Ghost of Mars, Daredevil, SWAT, Matrix Reloaded, Matrix Revolution, 3. Donc c'est pour ça que je disais qu'il a doublé Brad Pitt, ouais, hein, c'était pas une connerie.
Brad Pitt plein de fois.
Ouais, c'est pour ça qu'il l'avait dirigé dans Bullet Train là il y a un ou deux ans en fait, c'était de là qu'il se connaissait. Van Helsing, Constantine, Triple X, L'État de l'Union, Mr. and Mrs. Smith, Serenity, V pour Vendetta, Underworld Evolution, 300, Je suis une légende, un Jason Bourne. Je sais plus lequel c'est. Jumper, Speed Racer, X-Men Origins Wolverine, Tron Legacy, Conan le Barbare, le remake dégueulasse, Jupiter Ascending. Donc voilà, David Leitch qui ensuite a co-réalisé le premier John Wick avec son pote Chad Stahelski.
Qui lui était le double qui nu.
C'est oui. C'est lui qui était la doublure de Keanu Reeves sur le premier Matrix, effectivement. Et puis voilà, Chad Stahelski, depuis, bah, il avait réalisé Atomic Blonde, Deadpool 2, que j'ai revu il y a pas longtemps, qui était pas ouf en fait. Mais je crois que je l'avais déjà dit à l'époque. Hobbs & Shaw, qui était vraiment pas bon. Bullet Train, que j'avais trouvé moyen il y a deux ans. Et là donc, The Fall Guy. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de The Fall Guy? Déjà, moi, j'ai assez parlé.
J'ai bien aimé. J'ai passé un super bon moment. C'était léger. C'était fun. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Mais c'est très con, quoi.
Oui, c'est vraiment con. Oui.
C'est, je sais pas à quoi le référencer parce que il y a des moments un peu presque Last Action Hero, mais moins, où c'est moins poussé. En fait, j'aurais bien aimé qu'il soit un tout petit peu plus sérieux, soit qu'il aille carrément dans le full déconné.
C'est vrai qu'il est un peu entre les deux, c'est un peu bizarre.
Parce qu'il est la majorité du temps, c'est il veut aller vers Last Action Hero, mais il ose pas, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Parce qu'il est, il a tout le temps un ton très léger. Le personnage de Cold Sivers, il est plutôt déconneur. Il est jamais trop paniqué, alors qu'il lui arrive des trucs de malade.
Il a toujours le sourire. C'est vraiment un physical actor à mort. Il sait comment utiliser son corps et ça se prête super bien ici. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Il fait le couillon, mais franchement, il faut du talent pour faire ce qu'il fait. Et ça marche vraiment bien. Par contre, je suis un peu plus déçu par Emily Blunt. Ouais. Pas qu'elle joue mal, mais par contre, son rôle est catastrophique, je trouve, en fait. Ouais, elle est vraiment, c'est une cruche en fait quoi. Elle est capable de jouer des persos tellement intéressants que lui confier le rôle d'une cruche pareil. Et même tout court, juste le fait que le personnage féminin du film soit un peu une cruche comme ça, je trouvais ça dommage. Quoi.
Aussi qu'elle ait un poste aussi important. Enfin, tu vois, c'est un peu.
Ouais, ça marche
pas
en
sérieuse,
fait. Non. Ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec son personnage. Et c'est pas de la faute d'Emily Blunt, c'est vraiment un problème d'écriture. Ouais.
Et eux, ils essayent de faire le mieux qu'ils peuvent du script, mais leur romance marche pas vraiment bien, je trouve, à l'écran.
Non, hein. Ça paraît très artificiel, le fait qu'ils étaient en couple autrefois, et puis lui, il a disparu sans laisser de traces. Du coup, elle est en colère contre lui, elle va lui faire payer à fond. Après, ça donne des scènes très drôles, quand elle lui fait payer sur le tournage, mais.
Ça marche par contre, tu vois. Mais c'est quand ils sont en romance que ça marche pas, je trouve.
Ouais, ben ça marche pas parce qu'en fait, ouais, c'est le film essaie de redevenir sérieux, mais du coup, ça prend pas parce que c'était tout ce qu'ils ont fait avant était ridicule. Donc ouais, j'ai même pas pitché le truc, mais c'est l'histoire d'un cascadeur donc qui, suite à un accident, à une cascade ratée, a disparu des radars, y compris pour sa propre petite amie, et reprend, je sais plus combien de temps plus tard, 18 mois plus tard, accepte de tourner dans un film et il découvre que la réalisation réalisatrice de ce film, c'est son ex-petite amie. Il va essayer de la reconquérir et de s'excuser. Sauf que, en fait, ça, tout ça, c'est même pas le cœur du scénario, parce qu'en fait, le cœur du scénario, c'est qu'on va lui demander de retrouver l'acteur star de ce film dans lequel il était en train de jouer. L'acteur star Tom Ryder, le jeu de mots est drôle d'ailleurs. Mais il y a plein de jeux de mots, il y a plein de gags, il y a plein de références à plein de trucs. Voilà, c'est drôle. L'acteur Tom Ryder, l'acteur star a disparu. Il est interprété par Aaron Taylor Johnson. C'est une saloperie ce type. C'est vraiment l'acteur insupportable. Voilà, limite cliché. Mais c'est la star et il a disparu et le film ne pourra pas se terminer s'il ne le retrouve pas. Donc pour essayer de sauver le film de sa petite amie et donc sauver sa relation avec son ancienne petite amie, il va essayer de retrouver cet acteur, mais du coup il va tomber dans des histoires pas possibles. Bref, et tout ça va être un prétexte pour régulièrement mettre en scène des cascades. Voilà, en gros, le truc.
Ça marche bien, franchement, moi je me suis bien amusé. Ça méritait plus, aussi. C'est fun, c'est juste... Est-ce que c'est parfait? Non, mais c'était
non,
cool.
Non.
C'était cool. Et Ryan Gosling.
Oui, en fait, Ryan Gosling est parfait. Franchement, ouais, c'est vrai que c'est vraiment grâce à lui que ça marche aussi bien. Moi, j'ai un peu été voir le film à reculons. Parce que j'avais l'impression que ça allait être un truc lourdingue. Ça allait un peu.
Ça allait un peu,
mais c'était
marche.
Drôle. Mais ça marche.
Moi
en
aussi,
fait. Ouais,
j'étais semi-motivé d'y aller. J'étais pas. Genre, je comptais aller le voir, tu vois, mais j'étais pas sûr à 100%. Et au final, j'étais content quand je suis sorti.
Ouais, pareil. J'étais vraiment content. J'ai passé un bon moment. Je me suis bien marré. Toutes les références aux cascades et tout ce qu'ils ont essayé de faire avec les cascades, il y a des trucs vraiment impressionnants. Maintenant, j'ai un problème avec la photo du film qui rend toutes les cascades très artificielles, je trouve, alors qu'ils se sont fait chier à faire les trucs en vrai. Au lieu de les faire sur fond vert. Et pour moi, il y a un petit défaut dans la photo du film qui fait que les cascades ont l'air d'être faites sur fond vert. Alors que c'est pas le cas et c'est un peu dommage. Moi, ce qui m'avait un peu saoulé, c'était la campagne de promo du film, en fait, qui était complètement déconnante. Encore à ce jour, je ne comprends pas. Ils ont essayé de nous vendre le truc vraiment comme un blockbuster de fou. Et je comprends pas parce que bon, c'est un film quand même à 125 millions de dollars. Donc oui, on est sur du semi-blockbuster, mais la campagne de promo, elle était délirante pour moi et je trouve qu'ils vendaient le film comme beaucoup plus gros que ce qu'il n'est vraiment.
Ouais. Ils le vendaient vraiment comme un blockbuster alors que c'est un truc plus intimiste. En fait, c'est un truc qui aurait dû être dans les 50-60 millions et vendu un peu plus comme un last action et pousser un petit peu plus le côté un peu méta. Et breaking the fourth wall. Là, ça aurait mieux marché, tu vois. Je pense que c'est ça qu'aurait dû être le film. Là, il est un peu, il est trop déconnant pour être un blockbuster. Et en même temps, il est pas assez sérieux pour être last action. Il est trop sérieux pour être last action hero.
Ouais, c'est vrai. C'est très bizarre. Du coup, il s'est un peu vautré parce que avec son budget de 125 millions, il n'a rapporté que 180 millions dans le monde au box-office. Je pense que c'est une grosse déception pour eux parce qu'ils ont vraiment essayé de le pousser à mort. Mais le film est sympa, mais il aurait pas dû coûter 125 millions, hein, en fait. Je crois que l'erreur, elle est là, quoi. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête pour penser que ce film avait le potentiel d'être un énorme blockbuster.
Ryan Gosling,
je comprends pas.
Ken.
Ouais, bah ils se sont un peu enflammés.
Fallait qu'ils chantent.
Oh non, pitié.
À chaque fois qu'ils chantent, ça marche. Hein.
Oui, ça marche au box-office. Ça marche pas sur moi, mais ça marche au box-office. Donc moi, je reverrai ce film avec plaisir. Je me suis vraiment bien marré. En plus, je le verrai en VO parce que j'ai un peu souffert avec la VF.
C'est un bon film à voir, genre tu scrolles et tu vois ça, tu te dis ah c'est cool quoi, tu vois. C'est
ouais,
easy.
Voilà.
Maintenant c'est connu, et c'est pour ça que tous les films Netflix sont de la merde hein, d'ailleurs, mais c'est connu que les execs envoient des notes the movie is not second screen enough. Et c'est l'idée que tu vois, ton film doit être suffisamment con que le mec qui est sur son téléphone en permanence, il doit quand même comprendre ton film. C'est vraiment... C'est comme ça que les films Netflix sont décidés.
C'est grave.
Ouais, mais c'est connu, hein, c'est pour ça que...
Mais ça se tient. Pour un film Netflix, quelque part, ça se tient. Mais
tu vois,
je
trouve que le meilleur exemple, c'est quoi le murder mystery que Netflix fait? Ils en ont fait 2-3.
Deux, trois, carrément?
Il me semble qu'il y en a 2-3.
Tu confonds pas avec les trucs de Benoît Blanc,
non,
là, où ils en ont fait un? Les films
Glassonian, il y en a pas 2?
Il y en a 2, mais le premier était sorti au cinéma et le deuxième est une exclusivité Netflix.
Out, ouais. C'est ça que je veux dire.
Ah, c'est bien ça, ok.
Knives Out, en particulier le 2, c'est le parfait film Netflix, tu vois. C'est un murder mystery. Ouais. Pour gens qui ne regardent pas le film.
Mm-hmm.
Oui, je parlais pas de celui avec Adam Sandler.
Je croyais que tu parlais de ça. Ouais. Ça, c'est vraiment pourri. C'est vraiment à chier. Ouais. Ok.
Non, mais c'est vraiment dans les notes. Maintenant, il y a plein de producteurs qui ont montré ça, tu vois. Et ici, je le disais comme une grosse critique, mais tu vois, Fall Guy, tu peux l'avoir un peu dans le background, quoi. Et ça va être marrant.
Ça peut, oui, ça peut. Tu reviens à te concentrer sur l'écran pendant les scènes d'action.
T'écoutes les jokes et basta, quoi.
T'écoutes un peu les blagues et ça suffit, oui. Oui, c'est vrai que ça passerait. C'est un peu dommage. Mais ça passe.
Oui, mais ça reste fun. Enfin, ça marche bien sur celui-là, quoi, tu vois. Ça reste fun. Il se prétend pas être un film intellectuel, quoi. Il prétend vraiment juste...
Non, bien sûr.
Aimer les cascades. Et ça le rend
et
bien.
Et ça, franchement, ça, ouais. Ça, l'hommage aux cascadeurs et aux cascades. Enfin, tout ce qu'il y a dans le générique de fin,
c'est super.
C'est génial. Franchement, j'ai adoré. Ouais. Ça, c'est vraiment excellent. Et c'est un hommage sincère au rôle des cascadeurs. Et même si l'histoire est débile et n'est absolument pas crédible, il y a plein de trucs vraiment cool sur le rôle des cascadeurs, quoi. Donc, ouais.
Voilà, ça clôture notre retour.
Notre comeback épisode, ouais.
Bon, mon prochain, j'ai presque pas de film, hein, donc ça aidera.
Ah oui, ça va être plus rapide. Ça va être intéressant, ça aussi, tiens.
Vu que j'ai pas été au ciné, entre eux.
Rassurez-vous, il a vu les films principaux quand même, il a vu Deadpool, il a vu Alien, on en parlera. Il y aura juste pas de foule.
J'aurais préféré Alien entre les deux.
Ah ouais?
J'ai préféré Alien entre les deux. Tous les deux ont un problème similaire, c'est un peu fanservice, mais...
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé les deux aussi, hein, mais... Okay.
Non, moi, je m'attendais à un full sur le nouveau Shyamalan.
Alors non, vraiment pas. Ah oui, tu l'as vu aussi, c'est vrai. Bon, on en parlera, mais putain, Shyamalan, il a craqué, hein. Il a vraiment... complètement pété les plombs, quoi. C'est pas possible ce qu'il a écrit, quoi.
Ok. On est bon pour cet épisode? Quelque chose sur Fall Guy?
Ouais, je crois, je regarde parce que je regarde si j'avais noté des anecdotes sur Fall Guy. Non, mais la principale, c'était le dialogue où on lui demande s'il existe un Oscar. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est un petit message. Ah, spoiler! Ça va pas ou quoi?
Ouais.
Et moi, je l'ai attendu tout le film.
À toi de voir si tu veux le couper ou pas.
Ouais, je verrai si je le coupe ou pas.
Ça serait vite coupé pour le coup, je pense. Ouais. Non, mais oui, moi aussi, je l'attendais. Ouais. Ok. Promo?
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Vous pouvez retrouver nos autres épisodes. Oui, on en a fait d'autres avant.
Oui.
Si c'est le premier que vous écoutez, bienvenue.
Autrefois.
Il y a de longues périodes où on enregistrait des podcasts. Sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio PodCloud, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, sur les réseaux sociaux, Twitter, je continue, @24fpspodcast, Facebook, 24fpspodcast, moi sur Twitter, @RHITZ.
Et moi sur Twitter, Blue Sky et Threads, c'est @DravenHardRock qui s'écrit DRAVENARDROK. Je me fais chier à poster sur les trois, C'est chiant comme la mort. J'essaie de trouver une appli gratuite qui permet de le faire, mais pour l'instant, celle que j'ai est nulle. J'essaie de, voilà. Si vous avez des bons plans, d'ailleurs, ça m'intéresse parce que j'essaie vraiment de faire l'effort de poster sur les trois. Je comprends les gens qui veulent plus être sur Twitter, mais malgré tout, Twitter reste quand même un réseau, le réseau sur lequel il se passe des trucs. J'aime bien Blue Sky aussi. Threads, limite, je me demande pourquoi je continue à poster, mais bon.
Je sais pas, je trouve que l'ambiance de Threads est vraiment bizarre, quoi.
Oui, c'est très différent. Ouais, c'est vrai. C'est très bizarre. Blue Sky est vraiment chouette, mais tout le monde n'est pas sur Blue Sky, quoi. Blue Sky, c'est vraiment Twitter sans la merde de Twitter, en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Mais il y a largement pas autant de monde que sur Twitter. C'est dommage.
Le truc en général pour cross-poster, c'est Buffer. Enfin, c'est un des trucs les plus.
Bah, je vais regarder s'ils ont une offre gratuite qui. Voilà, quoi. Ou pas cher à la limite, mais pourquoi pas.
Je sais pas s'ils ont Blue Sky, c'est le seul truc qu'il faut que tu vérifies.
Ah ouais, oh, je pense maintenant, celle que j'utilise qui est merdique, a Blue Sky. Donc,
ouais, ils ont Blue Sky. Et c'est free si t'es. C'est payant quand t'es une équipe.
Ah bah je vais regarder, ça m'intéresse. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas tout mettre dessus, je peux pas mettre tous mes comptes. Enfin, il faut voir en fait. Non, je vais regarder.
Je crois que c'est ça la limitation, c'est t'as droit à un certain nombre de channels. Si ouais, tu veux que ce soit gratuit. Sinon tu passes à un payant, quoi.
Bon, bref, je vais regarder.
Mais ouais, c'est un des plus connus.
OK. OK.
All right.
Voilà, oui, ben vous me retrouvez également dans d'autres podcasts. Alors, vous me retrouvez dans The Masters of Horror Show, consacré à la filmographie de John Carpenter. On a un épisode qui sort bientôt, qui est consacré à Fog ou The Fog, selon la version que vous préférez. Pareil, hein, y a eu un gros break sur ce podcast-là, mais voilà, mais il y a normalement il devrait y avoir deux épisodes d'ici la fin de l'année, Fog et un consacré à Halloween 2. Qui sortira aussi normalement d'ici la fin de l'année. Vous me retrouvez dans Cornelius and Zira. Bon, ça fait une paye qu'on n'a rien enregistré, mais c'est pas grave. Il y a plein de vieux épisodes dans lesquels j'apparais aux côtés du docteur Zaius, puisque notamment si vous voulez la critique très très longue qu'on a faite de la planète des singes, le nouveau royaume, c'est là-bas. Mais on a aussi des épisodes musicaux, qu'on reprendra peut-être dans les temps qui viennent. Où est-ce que j'apparais encore parce que je réfléchis. Alors je suis dans Stucom, mais plus pour longtemps, puisque bientôt devrait être publié l'épisode. Alors ça a été annoncé, donc je ne révèle rien. Hein, mais l'épisode des adieux d'Ego à Stucom. Et si Ego s'en va, je m'en vais aussi parce qu'en fait la rubrique qu'on faisait ensemble était vraiment liée à lui et à notre amour. Commun pour le métal, donc voilà. Donc, mes participations à Stucom étaient extrêmement limitées, mais voilà. Bientôt, en tout cas, j'ai participé à l'enregistrement. C'est pas juste ma guitare que vous entendrez dans le dernier épisode d'Ego, mais je suis bien présent dans tout l'épisode que vous entendrez bientôt. Par contre, je suis un peu revenu à mes premières amours, donc vous m'entendrez de temps en temps dans un podcast d'actu tech. Qui s'appelle Techcraft, que moi j'écoute depuis très 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 longtemps, et je connais Kenton depuis des années, et il m'a gentiment invité à participer à Techcraft. Donc voilà, j'y serai de temps en temps. J'ai déjà fait deux épisodes avec eux là ces derniers temps. Deux épisodes plus un live pendant la keynote, la dernière keynote d'Apple. Donc voilà, c'est génial, ça me rappelle ma jeunesse quand on s'est connus, toi et moi, Julien, quand on faisait, on a fait ça, hein, on a fait des live keynote.
Ironiquement, c'est quelqu'un m'a envoyé un email il y a une semaine ou deux.
Ouais, ah ouais.
Je te dirai après.
Ok, excellent. Mais ça rappelle notre jeunesse quand on faisait comme ça des podcasts sur l'actu tech. Moi, j'aime beaucoup. J'essaie de suivre d'assez près le sujet de l'intelligence artificielle. J'essaie aussi de l'expliquer et de la vulgariser parce que beaucoup de gens l'utilisent mais ne comprennent absolument pas comment ça fonctionne derrière. Et du coup, parfois font n'importe quoi avec et ne savent pas pourquoi certaines choses marchent très bien et d'autres marchent pas. J'essaie de vulgariser ça et puis de rester à l'affût des nouveautés dans le domaine, notamment. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai l'impression d'avoir un gros trou de mémoire, mais j'espère que j'ai oublié personne. Bah si, j'ai oublié bien sûr Galactifrac, nom de Dieu.
Je me demandais s'il s'était passé un truc ou quoi.
Mais non, mais
j'ai failli le dire, et puis je me suis dit, bon, en fait, je vais me taire, hein, au cas où.
Mais si, mais non, mais Galactifrac, bien sûr, mais j'ai un peu manqué de temps pour faire des épisodes, donc ça a été un peu irrégulier ces derniers mois. Mais voilà, il y a un futur épisode qui est déjà dans la boîte, il y en a un qui est en cours d'écriture. Il y en a un que j'ai publié il y a un petit mois maintenant sur la musique de Bear McCreary pour la saison 1. J'ai eu des beaux messages de remerciement pour cet épisode. Parce que c'est vrai que ça m'a demandé un peu de travail de vulgariser, d'expliquer en fait ce qui se cache derrière la musique d'une série, parce qu'il y a des intentions, il y a du travail, il y a des thématiques qui passent par la musique. Et voilà, si vous aimez la musique et en particulier celle de Battlestar Galactica, il y a un épisode récent entièrement dédié qui m'a demandé un peu de travail. Voilà, on se quitte en musique. Alors j'ai tapé dans la BO de The Fall Guy. Parce qu'il y avait plein de trucs, il y avait beaucoup de rock, t'avais Thunderstruck d'ACDC, il y avait du Taylor Swift, mais aucun souvenir. Il y avait Looks That Kill de Motley Crue, des choses comme ça. Against All Odds de Phil Collins. Mais moi, j'ai choisi de retenir I Was Made for Loving You de Kiss, qui ouvrait d'ailleurs le film, qui ouvrait le film, mais aussi qui sert un peu de bande originale du film, parce que ça revient plein de fois, en fait, dans le film. Ils reprennent vraiment le thème de I Was Made for Loving You, donc voilà, je m'étais dit que c'était rigolo d'ouvrir cet épisode avec I Was Made for Loving You de Kiss. Je ne sais plus si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais voilà, c'est de très loin le morceau le plus connu de Kiss, et c'est très rigolo puisque c'est celui qui ressemble probablement le moins à la musique de Kiss dans son ensemble. Alors il y a une légende à propos de la création de ce morceau, parce que c'est un morceau qui avait fait un carton en 1979 en pleine vague disco, et la légende dit que justement l'idée de ce morceau serait venue d'une espèce d'engueulade entre le groupe et leur producteur. Les producteurs voulaient que le groupe sonne un peu plus commercial, et le groupe leur répondait, ouais, mais de toute façon les trucs commerciaux ça pourrait être écrit par n'importe qui en un rien de temps, et du coup soi-disant que la démo du morceau aurait été enregistrée seulement quelques heures après avoir fait ce pari, parce qu'en fait ils avaient fait un pari avec leur producteur: on vous parie que n'importe qui peut écrire de la merde commerciale en un rien de temps. A priori, en quelques heures, ils auraient écrit ça. Bon, ce dont on est sûr, qui est vrai en tout cas, c'était que effectivement, il y avait une volonté de la part du groupe de démontrer à quel point c'était facile d'écrire un tube disco. Ça, c'est vrai en tout cas. Donc voilà. Et ils ont bien fait de le faire, parce que ça a fait un tube intersidéral, et qui continue encore aujourd'hui d'être le morceau le plus diffusé de Kiss, et qui sert énormément dans la BO de The Fall Guy. On se quitte avec un autre morceau que j'aime beaucoup, beaucoup plus récent, c'est le morceau I Believe in a Thing Called Love de The Darkness. J'avais adoré ce morceau quand il était sorti en 2003. Je crois que c'était le premier album de The Darkness à l'époque. Voilà, The Darkness, c'était un espèce d'hommage, enfin c'est toujours, je crois qu'ils sont toujours actifs, un espèce d'hommage à Aerosmith, Bon Jovi, je ne sais quoi d'autre, mais voilà, un peu Queen aussi, oui, j'aurais été bête de pas citer Queen, parce que le chanteur aime beaucoup, Justin Hawkins, hein, aime beaucoup monter dans les aigus, donc voilà, ça avait fait mousse sur moi. Après j'ai largement pas écouté tous les albums de The Darkness, mais j'aime bien ce morceau. Je trouve qu'il a une super belle énergie, et il rend bien finalement hommage à tous les groupes qui servent de modèle à The Darkness. Donc voilà, donc on se quitte avec I Believe in a Thing Called Love de The Darkness, ça date de 2003, et je vous dis à très bientôt pour qu'on continue de rattraper notre retard. À bientôt tout le monde, ciao. Allez. Steering wheel.
simple love. Just a little bit more. With a chance we can make it now.